Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch toutes les semaines. On analyse ensemble tous les shows de la WWE aujourd'hui. Ça devient une habitude et ça va peut-être rester pour tout l'été. Hein, c'est la période, voilà, c'est le rythme estival qui s'est déjà installé dans le studio avec le super catch-up, la double dose, la double ration, SmackDown, Hero, le 7 et le 10 juillet 2023 pour m'accompagner dans cet événement, cet épisode exceptionnel. J'ai avec moi Giscal. Salut Giscal, comment ça va?
Salut IRM, salut tout le monde. Eh ouais, c'est quand on aime, on ne compte pas, double dose. Et, et oui, c'est vrai qu'en été, on aime bien les doubles doses. Eh oui.
Ouais. Bon, une sacrée double dose, hein, puisque ce vendredi, nous étions dans l'enceinte la plus incroyable, dans l'arène la plus incroyable, le Madison Square Garden, New York City, baby. Ah là là, que de souvenirs, hein, au Madison Square Garden, Giscal, que de souvenirs.
Magnifique enceinte, le Madison Square Garden. J'ai vu le plaisir d'aller voir un house show de Noël il y a bien maintenant 6 ou 7 ans, je pense. Quel kiff cette arène qui est faite, hein, pour le spectacle et notamment qui est beaucoup pour les sports de combat qui est très 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 connu pour ça, aussi pour les Knicks de New York, pour tout, et la WWE a connu des très très grands moments au Madison Square Garden, donc c'est toujours un petit événement. Et puis ils s'en cachent pas, d'ailleurs ils en font un petit événement marketing aussi à chaque fois qu'ils viennent, tout peut un petit peu arriver. Donc forcément, qui dit show au Madison Square Garden dit les yeux bien ouverts devant sa télé, on ne sait jamais.
Ouais, tu l'as dit, hein, on nous rappellera d'ailleurs, hein, tout au long de cet épisode avec des images, des archives de tous ces grands événements qui ont eu lieu, qui se sont produits au Madison Square Garden. Et ce soir, eh bien, ça risque de continuer, hein, un nouvel événement tant attendu risque un petit peu de faire trembler les murs, de faire trembler New York et peut-être même votre écran, puisque c'est l'heure de rendre la justice du Tribal Court ce soir à SmackDown avec les Usos qui débarquent et qui se félicitent un petit peu d'avoir battu Roman Reigns, hein, qui disait bon, on peut pas me battre, et puis en fait si on peut le battre Roman Reigns, ce n'est qu'un homme, il n'est qu'un homme après tout ce Roman Reigns. Mais Paul Heyman découpe bientôt, hein, il arrive avec Solo Sikoa. Ce soir, il est l'avocat de la défense. Ça nous rappelle quelques souvenirs, ce Trouble Court qui avait lieu, vous souvenez-vous, hein, à l'époque de Sami Zayn. On ressortira un petit peu d'ailleurs les mêmes ficelles. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que je ne sais pas toi, mais moi, je pensais que le Trouble Court, on allait avoir vraiment les anciens qui allaient venir.
Oui.
Et finalement, non, ça va se jouer à huis clos. À huis clos, voilà, ce soir.
Avec... Est-ce que ce Tribal Court était vraiment légitime, Roman Reigns? Justement, il a flairé.
Il a flairé, il a voulu un petit peu prendre le cours de ce jugement à son compte, hein, prendre un petit peu les commandes, et on va le voir, puisque, voilà, Paul Heyman est là pour être son avocat. Les Usos, lui disait un petit peu de la boucler, de la fermer. Il dit qu'un seul homme à la WWE qui peut dire à Paul Heyman d'arrêter de parler. À ce moment-là, on se dit, bah oui, ça va être Roman Reigns. C'est là, Solo Sikoa qui s'approche et qui met son doigt sur le micro de Paul Heyman. C'est un peu comme s'il mettait le doigt sur la bouche, finalement, à Paul Heyman. Et là, dans un gros, un petit frémissement dans la salle, là, déjà, ça fait même pas 2 minutes que le show a commencé. On se dit, oulala, mais il se passe des trucs ce soir, ça va pas être comme d'habitude. Solo, il balance le micro et la musique de Roman Reigns retentit. Le chef tribal est là ce soir, il fait son entrée. On va avoir donc le Trouble Court en opener du show. Déjà, c'est aussi étonnant.
C'est surprenant, on est d'accord.
Ouais. Voilà, acknowledge me. Il a perdu, il a pris le tombé, mais il est toujours le chef tribal. Il dit, puis il commence à plaider pour sa cause. Hein. Il dit, qui m'a mis dans cette situation? Et là, les Usos disent, hop, attends-toi. Et puis, il balance la fameuse pièce à conviction. Hein. Souvenez-vous, avec le jugement là, de Sami Zayn, on a des preuves. Et puis, donc, on voit toutes les manipulations, hein, psychiques, psychologiques de Roman Reigns tout au long de ces dernières années. Et Roman Reigns, j'ai fait ça, mais je suis pas comme ça, ce que vous montrez là à l'écran, le Roman Reigns manipulateur, c'est pas moi, j'ai dû le faire. On m'a rendu comme ça, c'est ce statut de chef tribal qui l'a obligé à être ainsi. Il l'a fait pour Jay, il l'a fait pour Jimmy, pour Solo, il a fait tout ce qu'il a fait, il a dû le faire, il l'a pas forcément fait de bon cœur, hein, jusqu'à là, hein. Il l'a pas forcément...
Les gens ne se rendent pas compte la vie de chef, c'est compliqué.
Mais grâce à lui, grâce à tous ces choix qu'il a dû faire, tous ces risques qu'il a dû prendre, et ben ils ont fait des main events de WrestleMania, mais lui, il les faisait avant la Bloodline. Il n'a pas attendu la Bloodline pour être le top guy, le top babyface de la WWE. Il a besoin de la Bloodline. C'est la Bloodline qui a besoin de Roman Reigns. Et ouais, il l'a fait pour la famille, si. Et là, c'est facile là, de montrer tout ça, là, compilé là, sous ses... À ses pires moments, hein, finalement, il le dit, hein, pendant que ses enfants regardent. Hein, il y en a 4, 5 des enfants. Il y en a beaucoup, il y a toute une famille à nourrir. Toute une famille à nourrir. Donc là, il commence à remanipuler. Hein, il est très fort, ce Roman Reigns. Même s'il y a une part de vérité dans tout ça, effectivement, c'est vrai, il a pas tort. Il a pas tort. Et soudain, et ben là, retournement de situation. Tout simplement, Roman Reigns dit qu'il en a fini avec tout ça, il en a marre. En fait, on sent tout d'un coup que la pression retombe. Il abandonne, il lâche tout. Il lâche le micro, il retire le lay, là, donc ce collier là, de chef tribal là, qui le remet tout simplement autour du cou de Jey Uso. Alors là, tout le monde est stupéfait, personne ne comprend. Jey le premier. Et Roman Reigns retire même sa ceinture. Poleman, il devient un zinzin à ce moment-là, il ne comprend pas. Oui. Sa ceinture unifiée, il la pose devant Jey comme ça. Il se met à genoux. Il dit « prends tout, Jey ». Avant de lui mettre un grand coup dans les valseuses. Eh ouais.
Eh oui.
Le fou. Là, c'est le bordel. Jimmy qui attaque Roman Reigns. Solo Sikoa qui vient défendre son patron. Superman punch à Jimmy qui est éjecté en dehors du ring. La grosse bagarre. Là, c'est le gros bordel. Hein. Solo Sikoa qui place Jimmy sur la table des commentateurs. Et cette fois-ci, le splash qui passe. On se rappelle de Money in the Bank. Et Roman Reigns qui célèbre en levant sa ceinture à côté, de Solo Sikoa. Voilà, Tribal Court. Alors, est-ce qu'on a vraiment respecté
Est-ce qu'on a respecté le Tribal Court? Je ne sais pas.
Tribal Court, peut-être que Tribal Court.
Quel est le verdict, du coup? Quel verdict?
Le verdict, c'est que bah, un grand coup dans les couilles, ça fait mal. Voilà.
Hein, voilà,
on ne s'en remet pas. Jimmy, hop, envoyé d'ailleurs dans l'ambulance. Hop, direction,
oui, c'est en passant, hein, faut quand même.
Direction le Central Hospital de New York. Est-ce qu'on était vraiment dans les règles là? Est-ce que là il y a jurisprudence?
Je ne sais pas s'il y a jurisprudence. Bah écoute, comme tu l'as dit, hein, Roman Reigns tout de suite, un des premiers trucs qu'il a rappelé, c'est le début de sa promo, c'est ça. Hein, c'est attendez, je comprends pas, c'est qui le chef tribal? C'est moi, non? Bon bah du coup. Qui a appelé ce tribunal? Il n'y a que moi qui peux appeler le tribunal. Donc bon, de base, il nous avait dit que hein, ce n'était pas légitime hein, comme assemblée. Mmh. Non, mais bon, blague à part, c'est encore une fois, quel segment nous reste-t-il encore des superlatifs pour qualifier les développements scénaristiques de la Bloodline? Je ne sais pas. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que la star du show, là, c'était Roman Reigns cette semaine. Oui. Quelle promo! Quelle promo, c'est ouais peut-être une de ses meilleures en tant que Tribal Chief cette promo. Alors je sais pas, j'avais rigolé sur le Discord en disant est-ce qu'il était en casting pour Hollywood et donc il montrait, c'était un peu une sorte de showcase. Regardez ce que je sais faire les gars. Pour après,
sa cassette, pour... il envoyait sa cassette.
Ouais, comme ça il envoyait sa cassette aux agents. Non, parce que c'est vrai qu'il pleure sur commande. Là dans ce segment, c'est assez dingue. En fait la promo est fantastique parce que c'est presque une promo de babyface en fait qui fait et tout avec une attitude et des mimiques de heel qui fait que en fait le public ne peut pas adhérer alors que tout ce qu'il dit potentiellement c'est un discours de face hein. Enfin, il dit non mais vous rendez pas compte le poids que j'ai sur les épaules depuis que je vous ai pris sur mon dos. Moi, je fais tout ça pour vous, pour la famille, pour les anciens. J'avais pas besoin de tout ça. Vous comprenez pas. Enfin, vous rendez pas compte de ce que ça représente de vous porter. J'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de vous avant. J'aurais pas besoin de vous après. Vous me faites chier. Puis c'est marrant de voir en quelque sorte ouais, le défilé des émotions pendant toute sa promo qui part au début d'une sorte d'énervement à l'incompréhension pour finir par le dépit presque. Il est désabusé à la fin. Il dit bah, écoute, c'est ça que tu veux. Il regarde, tu sais, il regarde Giusso, il dit, hein, il dit, c'est ça que tu veux, bah vas-y, prends-le, j'en ai plus rien à faire, j'ai plus besoin de tout ça, j'ai plus besoin de tout ça. C'était très très fort comme promo, j'ai trouvé. Enfin, encore une fois, hein, on le sait, on dit chaque semaine, les segments de la Bloodline, on est suspendu soit aux lèvres, soit aux actions de ces quatre mecs, enfin de ces cinq avec Paul Heyman. Et là, ça n'a pas. Là, c'était vraiment Roman Reigns, je trouve, qui a crevé l'écran. Et donc, un déroulé assez inattendu, parce que voilà, il se met à genoux, il enlève sa ceinture, il dit ça y est, Jey Uso, c'est le Tribal Chief. Moi, j'avais presque envie d'y croire sur le moment. Et puis, bah non, énième trahison d'une certaine manière, je trouve qu'elle est. Celle-ci, elle est vraiment. Elle représente peut-être. Le tournant un petit peu définitif dans la tête de Roman Reigns, qui devient de plus en plus ce fou qui s'isole petit à petit, en fait, là, définitivement, parce que c'était. Et puis je mets ça avec le beatdown qui vient derrière, parce que le beatdown, c'est aussi quand même une certaine gradation dans la violence qu'il n'y avait pas encore eu vraiment dans la Bloodline, au sein de la Bloodline.
Oui, parce
On
qu'elle
avait
est
parlé
en
de la.
dehors, elle est en dehors du match, quoi,
Oui,
ce
exactement,
beatdown.
parce que elle est non sanctionnée en quelque sorte par les règles du catch, quoi. C'est jusqu'ici la guerre civile qu'on a eue à Money in the Bank, c'était une guerre civile de gentlemen en quelque sorte, hein. Ils se sont battus dans les règles, il y a eu un tombé, ils se sont quittés à la fin du match, il y a eu un perdant, un vainqueur, en quelque sorte, il n'y a pas eu de vague, hein. C'est évidemment un tremblement de terre, mais bon, bah voilà, il y a eu un gagnant, un perdant et basta. Là, ça prend une autre tournure. C'est vraiment, c'est un cousin et un frère. Il faut rappeler quand même que c'est Solo Sikoa qui a quand même quasiment qui l'a foutu à l'hosto. C'est un frère qui a mis ses deux autres frères à l'hôpital. C'est un cousin qui pète un câble. Enfin, là, on a passé une sorte de point de non-retour. Et je trouve que même dans le personnage de Roman Reigns, ça y est, on a, je pense, d'une certaine manière, un petit peu, on est peut-être rentré un peu dans le dernier chapitre du roi fou qui s'isole complètement, qui devient dingue parce que il a. C'est presque comme le parrain de la mafia. Il a des discours très sensés, très posés, mais des actions complètement insensées et sanguines. Et là, ça y est, là, on sent qu'il perd complètement pied. Il pète un câble à agresser comme ça sa famille, à sortir des grandes tirades, mais dont il pense pas un mot pour derrière foutre un loblo derrière. Enfin, ça y est, c'est devenu l'enfoiré ultime qui va mourir tout seul en quelque sorte. Enfin, c'est un petit peu ça qu'on a l'impression de voir, surtout avec ce Solo Sikoa qui a des attitudes très intéressantes à suivre dans tout le segment. On avait déjà mentionné lors du Money in the Bank et même les semaines précédentes la place que prenait Solo Sikoa un petit peu dans la dynamique de la Bloodline, qui tu sentais qui la menace qui faisait peser sur Roman Reigns. Avant Money in the Bank, tu sentais que Roman Reigns, par quelques petites interactions assez subtiles, on se rappelle du petit coup d'épaule qu'il y avait eu un petit peu sans faire exprès, ou d'autres petits segments, on sentait que Roman Reigns avait peur de Solo Sikoa. Pendant le match à Money in the Bank, il y avait eu tout ce passage qui, je trouve, était lourd de sens, où le tombé, le near fall incroyable, où finalement Roman Reigns quasiment s'était mis au centre du ring en train de pleurer la tête entre les mains, et c'est Solo Sikoa qui l'avait secoué. On se demandait qui était le Tribal Chief dans l'histoire. Là, il y a eu, avant la tirade de Roman Reigns, il y a eu Solo Sikoa qui met la main sur le micro de Paul Heyman, qui dit il n'y a qu'une seule personne qui peut me faire taire, et en fait, Solo Sikoa, manifestement, a aussi le droit de le faire taire.
Ah ben non, il y en a deux.
Et puis il y a eu ce moment où quand, juste après le gros bazar, ou quand il y avait le lay qui était par terre, qui est-ce qui le ramasse? C'est Solo Sikoa, et il y a une petite
Ah oui,
hésitation quand même. Hein,
tu as raison.
Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On sent que ouais, on est rentré dans une sorte de course folle vers la chute de Roman Reigns. Et ouais, ce segment était extrêmement excitant.
Bon, voilà, Jimmy, hein, on enverra des fleurs à Jimmy quand
Ouais,
même de la part
ciao Jimmy.
de ce catch-up. Ouais, il y a
C'est un plaisir.
une petite tirelire là qui est faite, un
Une
petit
petite
pot
cagnotte.
commun.
Ouais.
Ouais, petite cagnotte pour Jimmy. Pour moi, qu'il ait une chambre avec la télé, quoi, qu'il puisse continuer de
Voilà.
voir
Au moins
que
de payer
les.
le réseau, quoi. Ouais.
Ouais. Derrière, eh ben, on a eu un petit Sheamus en petite forme, j'ai trouvé. Il a affronté
Plus
Austin Theory ce
rassurant comme
soir.
segment.
Je pense
Ouais.
qu'il a dû un peu trop fêter s'y retrouver avec ses potos là au Royaume-Uni. Déjà qu'on l'a pas beaucoup vu à Londres. Il y faisait une petite représentation. C'était un petit Sheamus. Il avait l'air fatigué.
Ouais,
J'ai trouvé, voilà, c'était pas un match complètement ouf face à Austin Theory, donc le fameux match qu'on aurait dû avoir en dark à SmackDown à
ah,
Londres.
c'est ce qu'il nous avait promis en tout
Ce que j'avais promis,
cas.
bah en fait, c'était là sous nos yeux. Bah écoute, finalement, bon, on n'a pas forcément loupé grand-chose. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que bah, Pretty Deadly revient un petit peu dans la cour de Austin Theory.
Hein, gratté.
Voilà, voilà. Ils ont venu empêcher Sheamus de ganner, de l'emporter ce match. Ensuite, Ridge Holland et Bubuch sont venus défendre leurs coéquipiers. Et le champion en a profité pour faire un petit paquet sur Sheamus et rester champion. Bon, bah voilà, rien de très extraordinaire. On continue un petit peu cette histoire avec bah, du beau monde, hein, quand même, du beau monde. Qui se retrouve, qui mérite encore peut-être quelques rencontres avant de se séparer gentiment, hein, pour aller vers autre chose. Parce que Austin Theory, hein, qu'est-ce qui se passe pour Austin Theory ? C'est pas la folie quand même. Hein.
Il se passe pas grand-chose avec Austin Theory. Hein. C'est vrai qu'il se passe pas énorme. Difficile la période. Depuis WrestleMania, il avait disparu, hein, sensiblement. Alors que pourtant, le mec avait quand même battu. John Cena, donc on était en droit peut-être d'attendre quand même une sorte de Summer of Theory, peut-être avec beaucoup d'expositions à SmackDown et une ceinture US qui flambe un peu. C'est tout l'inverse, il a complètement disparu des radars. Alors la faute à la Bloodline, je sais pas, c'est avec SmackDown, c'est devenu un show où il est tellement dur de se faire une place, on en parlera peut-être plus loin dans l'analyse globale de cette émission, mais c'est vrai que c'est difficile de se faire sa place. En tout cas, force est de constater qu'il ne se la fait pas, hein, la place, là. Et ce n'est pas cette rivalité. J'ai l'impression que j'avais face à moi un peu une sorte de semi-rivalité pas vraiment assumée. Ouais. Il n'est pas complètement... Il la défend pas vraiment, sa ceinture. Quoi. C'est toujours... on lui a mis Pretty Deadly dans les pattes. Est-ce que c'est justement une sorte un petit peu d'aveu d'impuissance de se dire, bon... Ça fait pas bander entre guillemets Theory en ce moment, on va lui mettre Pretty Deadly et puis on va faire d'une pierre deux coups, ou est-ce que c'est d'une certaine manière plus une façon de mettre Pretty Deadly dans le bain et donc de l'associer avec un grand champion et tout. Bah justement, le fait que ce soit pas net, je trouve, comme question, en dit long un petit peu sur le statut actuellement de Austin Theory. Et ouais, je suis d'accord, Sheamus, c'était pas un grand Sheamus. J'étais assez déçu, moi j'en attendais pas mal de ce match, et j'ai trouvé que c'était assez fadoche. Et ça me fait pas spécialement me dire, j'ai envie que ça dure jusqu'à SummerSlam, quoi. Ils ont pas donné les arguments d'un programme SummerSlam worthy, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe avec Theory concrètement, mais c'est pas folichon.
Bon, en tout cas, un programme pour SummerSlam qui arrive, c'est Edge. Le 15e retour de Edge à la WWE. Il est 11 fois champion, comme le rappelle Grayson Waller, parce que hein, évidemment, on est dans le Grayson Waller effect. Il est 11 fois champion, je pense qu'il a fait plus de retours, de comeback, que de fois où il a été champion.
De titres, ouais.
C'est ouais, que de titres. Ouais. Il est à son actif. Plus de comeback que de titres mondial. C'est le grand retour, c'est les 25 ans de carrière de Edge à la WWE. Le mois prochain, ils seront à Toronto en plus, donc voilà, ça va être la grosse stuff. L'autre, il dit, mais pourquoi t'es de retour ? Et ben, c'est pour les fans, premier pay-per-view SummerSlam. Il nous dit qu'il était tag team avec Sable, contre Marc Mero et Jacqueline. Alors ça ne rajeunit pas tout ça. Ouais. Il était entré par la foule, voilà, et donc avec les fans, tout. Donc, grosse communion avec les fans. Ce soir, ben voilà, c'est à New York, un public difficile, mais c'est des bosseurs, c'est des grands rêveurs ici. Dans ma tête, je dis ouais, ils sont tous très riches aussi parce que les bosseurs et les grands rêveurs, c'est ça.
C'est la ville la plus chère des États-Unis.
C'est ça, 98 déjà, c'est pas mal.
San Francisco ou celle-ci, mais bon, ça se joue.
Grayson Waller dit voilà, cool, c'est le. Mais Edge, la grande annonce pour ce soir, c'est quoi ? C'est que tu prends ta retraite, n'hésite pas. C'est ça, la dernière fois qu'on te verra, c'était au Madison Square Garden. Lui dit bah, que tu racontes ? Non. La semaine dernière, tu étais face à John Cena. Aujourd'hui, tu es face à Edge. Toi, tu n'as pas encore eu de match finalement dans le main roster, mon petit gars. Tu te la pètes avec ton show là, mais qu'est-ce que tu vois entre les cordes ? Bon, bah écoute, c'est l'heure de prouver. C'est l'heure de prouver si tu sais nager ou si tu vas couler. Pas de retraite pour moi ce soir, mais plutôt un match. Edge contre Grayson Waller. Eh ouais, Edge y revient. Et Edge, il a un match. Premier match, Edge pour son retour. Et premier match de Grayson Waller dans le main roster. Un match qui a lieu un petit peu plus tard. un match tout à fait honnête hein, pour ce jeune homme, face à Edge, hein, qui a sorti un petit peu le grand jeu aussi. Grayson Waller qui a pu monter un peu toute sa palette de catcher. Il est agile, hein, et puis c'est un petit con, donc ça nous plaît bien. On a donc ce match qui va voir donc la victoire de Edge, qui finalement adoube un petit peu le petit jeune en le mettant dans le grand bain. Un match qui était vraiment vraiment bon, qui a vu Grayson Waller tout simplement tenir tête pendant l'espace de quelques minutes à Edge, hein, voilà, Hall of Famer. Donc c'était on a eu des belles prises un petit peu tout au long de ce match, et à la fin le fameux espèce de stunner là, rolling stunner là, qui est contré par un spear. Alors un spear un peu étrange, hein, parce que c'était un spear en contre quasiment à la verticale, quoi. Le truc, il avait pas beaucoup d'élan. Et à la fin, Edge surtout qui dit, écoute, Waller, hein, il lui avait dit soit tu nages, soit tu coules, hein, c'est ce qu'il lui avait dit jusqu'à là. Il dit, t'as nagé. Donc voilà. En français, ça la rend pas ouf, mais voilà.
Non.
T'as fait tes preuves, quoi. Bienvenue dans le grand bain, grosso modo.
Bravo. Il a donné son brevet.
C'est quoi le truc des grenouilles ou je sais pas quoi que tu donnes aux enfants,
tu sais. Je sais pas.
Ton badge des grenouilles.
Non, mais écoute, moi j'ai trouvé que il était pas mal. Moi j'étais particulièrement impressionné par Edge. Franchement, je trouve qu'il a. Alors lui, tu vois, on a parlé d'un petit Sheamus. Edge, ce soir, il avait décidé de se sortir les doigts. Il a fait un gros match pour le petit jeune. Il s'est pas foutu de sa gueule, et je trouve que Grayson Waller, de manière générale, a été relativement à la hauteur de l'événement, que ce soit au micro juste avant ou entre les cordes, j'ai trouvé pas mal. Il est agaçant, il marche bien, c'est vrai qu'il m'énerve, il m'énerve, mais dans le bon sens du terme, quoi. Je trouve qu'il est pas mal, ce petit Waller, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on se disait, c'est rigolo, il est énervant, mais qu'est-ce qu'il vaut entre les cordes? Et justement, ça y est, on a vu, et il y a des promesses. Alors, c'est sûr que c'est toujours un peu. On a évoqué le cas juste avant Austin Theory. Et c'est sûr que ça nous questionne encore plus. Enfin, en tout cas, ça me questionne encore plus parce que j'avais un petit peu l'impression, moi, depuis qu'il était arrivé dans le décor, ce Grayson Waller, j'avais un peu l'impression de me dire c'est bien mignon, mais on l'a déjà, entre guillemets, tu vois. C'est Austin Theory en australien, quoi. et donc, j'avais un peu du mal à me dire, c'est déjà d'avoir les deux dans le même show. Et puis, est-ce que c'est vraiment bien utile? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire autre chose de lui? Bon, écoute, en attendant, il prend de plus en plus de place, lui, pour le coup. Et son travail est de plus en plus, je trouve, en effet, intéressant. Donc, pourquoi pas je me dis, Austin Theory, attention, t'as chaud au miche, parce que peut-être que la place du petit branleur arrogant, athlétique et compagnie, là, le petit jeune qui a les dents longues et qui veut être la future top star et compagnie, vous êtes peut-être maintenant deux sur le créneau, donc la concurrence, attention. Grayson Waller, bien bon, joli, joli SmackDown pour Grayson Waller.
Ouais. Écoute, à qui on a offert coup sur coup un face-off avec John Cena et Edge?
Ouais.
C'est pas Austin Theory, hein. Austin Theory, il se retrouve dans des dark matchs, il se retrouve dans des petits matchs, les weekly.
En vrai, on parle du momentum, hein. Le momentum, il est pas avec Austin, il est plutôt avec Grayson, là, clairement.
Bon, le momentum, par contre, il n'est pas avec AJ Styles, il n'est pas avec Karrion Kross, parce que franchement, je ne veux pas vous faire l'affront de vous parler du match, c'était une purge.
Pour le coup, on a eu mieux en Dark Match, je pense.
Ouais, mais oui, j'ai eu l'impression que c'est une version écourtée, édulcorée, et moins fun du Dark Match qu'on a eu. Vraiment, parce qu'au début, j'ai dit, voilà le Dark Match, ok. Et puis, il y a eu un moment que tu as notamment Michin qui vient se friter avec Scarlett. Je fais, je me souviens de cette séquence, tout le monde regardait, puis, puis boum, ça se termine, je fais, mais attends. Il n'y avait que ça. Je dis, ok, c'est un dark
match.
Que
généralement, les dark matchs sont souvent des répétitions pour des matchs ou des feuds qui sont soit en cours, soit qui vont avoir lieu dans les shows télévisés. Je ne sais plus si on l'avait évoqué, qu'on avait eu du coup, le plaisir d'avoir après Money in the Bank.
On l'avait mentionné, effectivement.
On l'avait mentionné, voilà. Et donc, on se disait, on va sans doute avoir sensiblement la même limonade à SmackDown. Pas du tout.
Ouais,
Pas du
non,
tout.
c'était
Une
version
minute,
toute molle.
1 minute 30, ouais, je...
Ouais, non, mais ça n'a duré vraiment pas longtemps, et c'était, y avait rien en fait, y a rien
Bon,
qui a
non
été
pas que je
vraiment
mourrais
développé.
d'envie de voir Karrion Kross et Jay Styles pendant 10 minutes, hein, mais...
Ouais. Bon, la victoire d'AJ Styles avec son phénoménal forearm pour la victoire. Asuka est là, elle fait son entrée. Personne n'est prêt pour Asuka, sauf que Bianca Belair est prête puisqu'elle l'attaque. Et Charlotte Flair aussi, elle est prête puisqu'elle arrive aussi. C'est la bagarre entre les trois catcheuses. Voilà, tout le monde est prêt en fait. Tout le monde est prêt.
Même Io Sky est prête apparemment.
Charlotte, toujours balèze, hein, toujours ses runnings
Ouais.
à talons là, dans ses,
Ouais,
dans
c'est très
des.
impressionnant, franchement.
Dans des
Quand je l'ai
apparats.
vu à
Oh la
ces
vache.
15 cm là, je me suis dit waouh!
Waouh! Ouais, elle prend des risques. Elle vit dangereusement, cette femme vit
Même.
dangereusement. Ouais. Donc, toujours voilà, avec toujours la reine de la mode en plus, hein, toujours flamboyant, toujours décalée. Et c'est pas fini, puisque Io Sky débarque elle aussi, avec sa mallette, elle place le moonsault, elle s'apprête à faire son cash-in, jusqu'à
Avec
c'est
Bailey
prêt.
qui était là aussi.
Là, 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 là. Mais Bayley est là, et oui, effectivement, Bayley est là pour l'aider, mais Bianca
Pour l'aider.
Belair et Charlotte Flair l'en empêchent. Le cash-in ne passe pas. Et donc, Io Sky est obligé de battre en retraite une tentative avortée de cash-in. Alors, tout ça a duré, mais genre, ça s'est passé en 2 minutes, quoi.
Ah
C'était en
ouais,
deux
c'était
minutes.
à
Il n'y
peu près
avait
aussi long
aucune
que...
construction. Je me suis...
Ah non, non.
On aurait
Non,
presque
mais
pu y
c'était...
croire, du
Ouais.
coup. Genre, on s'est dit, oh, c'est un hold-up en 2 minutes, le cash-in le plus rapide
Exactement.
de l'histoire, sans aucune
Ouais.
construction, quoi.
Et ça venait juste après le match Karrion Kross et Jay Styles. Et c'est
Ouais.
vrai qu'à ce moment-là, quand il y a eu l'enchaînement des deux, je me suis dit, mais attends, c'est... Il est bizarre ce show.
C'est quoi
Non, mais
ce jeu?
ce show est bizarre parce qu'en fait, tu t'en venais presque à te dire, non, mais attends, en fait, ils ont peut-être pris trop de temps. Enfin, tu vois, je sais pas, peut-être que l'intro avait été trop longue parce que c'était fou d'avoir à ce moment-là deux segments aussi rushés en fait que ça. Ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un. Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait mis avance rapide et je regardais le truc en x3. Et donc, on avait. C'est fou. Asuka, elle a à peine pris le micro. Ouais, personne n'est prête. Que boum, musique de Bianca. Boum, musique de Charlotte. Boum, coup de mallette dans la tête. Écoute, ouais, c'est vrai que c'était assez drôle au final quand tu y repenses. Tu dis Asuka, bah, écoute, non, en fait, tout le monde était prêt. Hein, tout le monde était prêt.
Celle qui était pas prête, elle qui était pas prête, était
T'étais
pas
la
prête.
seule qui n'était pas prête, t'as eu très chaud.
Ouais.
Bon, écoute, c'était amusant,
Oui,
mais
quand tu y repenses comme ça, tu te dis, voilà, tu trouves ça amusant, tu te dis, ouais, c'était quand même bizarre, et du coup,
Après, voilà, c'était amusant, mais
ça rend le truc marrant.
ça rend le truc marrant, tu y repenses, mais après, tu te dis, bon, qu'est-ce que. C'est vrai que
Bah,
tu y repenses, tu te dis aussi, mais qu'est-ce que j'ai regardé là, concrètement?
c'était quoi ça?
Qu'est-ce que c'était que ça? Où est-ce qu'on va?
Oui, c'est sûr. Où est-ce qu'on va?
C'est plus ça. Bon, alors oui, où est-ce qu'on va? Ça sent le triple threat,
Oui.
certes,
Oui, on sait où on va quand même.
mais bon, c'est quand même un peu n'importe quoi.
Ouais.
Enfin, potentiellement, s'il y a triple threat, tu vois, c'est censé être quand même un
L'affiche est
énorme match.
énorme. Attends,
Ouais,
l'affiche
l'affiche
est
est énorme.
énorme.
Et on a l'impression qu'il te book ça comme si c'était un 24-7, quoi. Enfin, moi, ça m'a rappelé les segments du
C'est vrai.
24-7 où il se court autour du ring, tu vois.
Ah
Et il passe au milieu d'un segment qui a lieu à côté, quoi. Enfin,
oui.
c'est quand même étrange. Ouais.
Bah écoute, ils ont peut-être pris le time slot du 24-7, hein, tout simplement, pour placer ça. Hein. C'est pour ça, mais il y avait 1 minute, 9 minutes. Bon, en tout cas, oui, pour cette. L'affiche est belle, on la connaît tous déjà à l'avance. Il va falloir donner un petit peu plus de temps à ces dames là pour pouvoir nous montrer monter un truc un peu plus tendu, avec un peu plus
Plus
d'enjeu,
consistant, quoi.
plus consistant, avec des belles promos, des beaux échanges, de la bagarre générale, cette menace de Io Sky qui plane. Parce que là, on a quand même, quand tu regardes les 5 catcheuses qui était
Ouais, il y a du beau
impliqué,
monde, quoi.
tu fais waouh, ok, SmackDown, oh ok,
Bah ouais.
une féminine
Parfois,
de
tu vois
SmackDown.
des. Je suis mauvaise langue, mais bon, la
Allez,
semaine
allez, qu'est-ce
dernière,
qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire?
la semaine dernière, on a eu le droit, pendant Raw, à, je sais pas, peut-être 15 minutes où on a eu tout le fin fond du fin fond de la carte de Raw. Et là, on a le droit à 1 minute 30 avec peut-être les 5 meilleurs actuellement. Il manquait que Becky Lynch de la division. Donc, vous foutez pas un peu de notre gueule, là?
Ouais. En fait, c'est le seul segment féminin.
Oui.
Hein. Voilà, juste pour le. Voilà.
Alors que à Raw, on s'est tapé tout ce que tu pouvais bouffer de féminin, là.
Bah écoute, là, on arrive à la fin. On arrive au main
Ah oui.
event, je crois, hein, tout simplement.
Ah oui.
D'ailleurs, ah oui, on nous annonce la semaine prochaine à SmackDown, Asuka va défendre sa ceinture face à Bianca Belair. Voilà,
Oui, sur
encore un
Rampage.
match qui va aller nulle
Voilà.
part.
Ouais.
Dans les coulisses, on a
Ça.
Apollo qui dit voilà, Jey Uso, il est de retour. Hein. Il le cherche. Il le cherche. Il n'est pas resté avec son frère. Il s'est assuré qu'il avait une chambre individuelle. Et puis que la mutuelle, il a passé la carte de la mutuelle, hein, parce qu'il vérifie quand même.
Ouais,
hein, aux
important.
États-Unis, sinon, il te
Non,
sort.
ça fera 20 000 dollars, monsieur.
20 000 dollars la
Mais
nuit.
c'était kefab, c'était kefab. Oui, c'était 20 000 quand même. Voilà. Ouais.
Ah, c'était kefab, ce sera 30 000, allez.
Voilà, vous êtes foutu de notre gueule en plus. Très bien.
Et puis Roman Reigns dit, bah, pas besoin de me chercher, je serai là. Donc Roman Reigns, il est là, sur le ring, avec Solo, avec Polo. Il demande au Madison Square Garden de le reconnaître.
Et c'est la
Acknowledge
double
me.
dose.
Ouais, et Jay débarque par la foule. Et ouais, par la foule, comme un homme du peuple qu'il est. Il s'attaque à Solo Sikoa qui est tenté de l'empêcher de passer, hein, qui lui barrait l'accès, le chemin. Et Jozo, il prend une chaise, hein, la chaise, l'ennemi numéro un de Roman Reigns. Hein, je vous invite d'ailleurs à écouter notre comptoir du catch spécial 1000
T'as
jours de
raison.
règne de Roman Reigns, où Jeliel et Rafa ont passé en revue tous les prétendants, tous les contenders de Roman Reigns dans un classement. La chaise étant numéro uno. Hein. Le vrai numéro un, c'est la chaise.
Ah, la chaise, elle est très forte.
Ouais. Solo défend Trouble Chief et c'est lui qui prend les coups de chaise. Il prend, hein, et il bouffe même, hein, parce que là, Jay, il se défoule. Il se défoule sur le petit frère. Petit frère a voulu grandir trop vite, là, mais il a oublié qu'il a une sœur de courir. Petit frère, hop, hop, coup de chaise dans la tête. Et Jay qui récupère la ceinture de Roman Reigns et qui lance le fameux défi, le challenge.
Ça y
Pour
est.
un match en un contre un, et on ne précise pas où, quand et pourquoi, mais moi je vous le dis, ce sera à SummerSlam, à Détroit, pour le titre suprême undisputed de Roman Reigns. Voilà, je vous le dis, hein,
Ah
comme
bah
ça vous le
voilà.
savez. Pas besoin de regarder. Ouais.
Monsieur a les feuilles des
Ah bah
bookers,
oui,
manifestement. Ah
oui.
bah voilà.
Ouais, ça doit avoir accès aux insiders de la
Bah dis donc, bah
WWE.
vous l'aurez entendu ici en premier.
Et tu vas
Donc
voir, ce sera pas
bon.
du tout ça, ce sera un 3v3, il
Ce
devra trouver
sera
deux partenaires de son choix.
un strap match pour la carrière de Jey Uso. Non, bah, en effet, écoute, oui, c'est sûr que ça sent ça. Ça y est, le défi, le gauntlet est lancé, le défi est posé. Bah, c'est ce qui devait arriver. C'est la suite logique, hein, du tombé après 3 ans et demi qu'on a eu à Money in the Bank avec Jey Uso qui a fait le tombé. Bah, écoute, maintenant il va retenter sa chance. Gagne-t-on Est-ce qu'il va pouvoir gagner 2 fois à la loterie et faire tomber 2 fois de suite le Tribal Chief? Ça va être ça maintenant tout l'enjeu. Mais ouais, bah, écoute, c'était bien fait, c'était bien exécuté. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de mots. Hein. C'était un segment de fin de SmackDown bien intense, de la bagarre, de l'émotion, de la sueur. Et puis Jey Uso là, qui a gueulé. Et alors, moi, ça m'a fait marrer. De voir Roman Reigns qui, quand Jey Uso a pris la ceinture, il était là, put it down, il
Oui,
a gueulé là, pose ça. On avait presque, et d'ailleurs, je pense que c'est pas complètement innocent, mais il avait l'air presque plus énervé que Jey Uso et la ceinture à la main que finalement que le lay là qu'il avait eu en ouverture d'émission, ce qui montre presque aussi, c'était un peu la soif de pouvoir, de domination là, avec cette ceinture qui veut plus lâcher. Et donc ouais, bah écoute, segment très efficace et on salive déjà à des promos de fou qu'il va y avoir, du
oh là
potentiel
là.
du retour de Jimmy Uso, peut-être ce sera à SummerSlam, peut-être ce sera avant, et puis toutes les promos de dingue,
Les
les
rappels à
intercontents.
l'histoire entre les
Et oui.
deux.
Ah bah là ils ont c'est simple, ils ont 3 ans, plus de 3 ans de vidéos dans lesquelles piocher, plus de 3 ans
Plus
de
les archives
segments.
personnelles de la
Plus
famille.
les archives de la famille, bon, ça va être
Voilà.
fou, ça va être
Les
fou.
cassettes de Noël. Ouais.
Ouais, c'est ça,
Puis déballer les
exactement.
cadeaux, on verra peut-être un truc. Toi, il va déballer les cadeaux, et on verra. Que
Peut-être qu'il y
Roman
a un
Reigns, il avait
magnétisme
toujours les plus beaux
qui vient de là.
cadeaux.
Ouais.
Il avait le circuit
Exactement.
Hot Wheels, le circuit Hot Wheels
Le
complet.
cercle de Twills qu'on voulait toujours. Ouais,
C'est
c'est
lui qui
vrai.
l'a eu. C'est comme ça que se termine ce show complètement dingue, hein, avec effectivement une Trouble Court qui a bouffé, je pense, la moitié du show. Et à la fin, il restait plus beaucoup de temps pour plus rebondir. Donc,
Restez les miettes. Ouais.
il a fallu faire vite. C'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown exceptionnel au cœur du Madison Square Garden de New
Eh
York?
bien, écoute, volontiers. Un SmackDown qui, je trouve, alors déjà, je trouve que depuis quelques temps, les SmackDown sont très difficiles à noter, avec
Oui.
ce poids de la Bloodline, en fait, qui t'as presque envie de noter la Bloodline, puis de noter le reste
Ouais,
de
ça
SmackDown.
dépend du coef que tu donnes à la Bloodline, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et alors là, c'était encore pire que tout. Là, je pense qu'on a rarement vu un tel déséquilibre. qui a rendu le show, écoute, ma foi, j'ai beaucoup apprécié ce SmackDown. C'est sûr que c'est difficile. La Tribal Court en ouverture était géniale. Le match de. Et puis ce segment final était génial. Et puis après, au milieu des deux, globalement, écoute, voilà, j'ai rigolé devant les filles. Et puis ce Grayson Waller Edge m'a beaucoup fait kiffer. Mais après, c'est sûr que ouais, tout le reste paraît quand même très, très rushé, très, très mineur. Donc c'est compliqué. Moi, je m'étais noté un 3,5 pour ce SmackDown parce que. Écoute, ouais, en fait, je me vois mal. J'ai quand même pris mon pied devant la moitié du show, parce que c'était la Bloodline. Donc, devant une bonne grosse moitié du show. Donc, difficile pour moi de mettre moins. Mais ouais, c'est compliqué à noter. Mon top, indéniablement, c'était. Voilà, il l'a rarement, parce que c'est trop facile de lui donner la majeure partie du temps. Mais bon, on va lui donner cette fois, parce que moi, je vais le donner à Roman Reigns, le top cette semaine. Et cette promo en ouverture, c'est. C'est un autre niveau. Il est d'un autre niveau. Et cette promo en est l'illustration parfaite. C'est véhiculer autant d'émotions en un segment comme ça, je trouve que c'est fou. Et déjà qu'on savait que les segments de la Bloodline, on a l'impression de regarder une série, mais enfin là, c'est avec lui, c'est vrai que c'est assez dingue. Donc il aura mon top cette semaine. Et le flop. Écoute, le flop, tu l'as dit tout à l'heure, je vais le donner. Ah, quoique non. Tu vois, j'ai pas envie de le donner à Sheamus. Je vais le donner à Austin Theory, mon flop, pour les raisons que j'ai évoquées un peu tout à l'heure. Ouais. C'est, il va falloir te bouger, Austin, parce que j'ai l'impression que les places sont encore plus chères qu'avant à SmackDown, que sur ton créneau, il y a de la concurrence qui est en train de se positionner. Donc va falloir, certes, Sheamus lui a peut-être pas donné la meilleure réplique cette semaine, mais ouais, Austin, il est pas sur la bonne trajectoire pour moi là, donc c'est mon flop.
Ok, c'est un beau flop, c'est un beau flop. Je suis presque tenté de le donner parce que finalement tous les autres ont fait ce qu'on leur a demandé en 2 minutes, sauf lui qui a pas forcément effectivement, qui est le plus en danger en fait, qui se retrouve à être le plus en danger. Ça a mis, tu as raison, ça a mis en lumière. Sa position particulière où effectivement c'est lui ce soir qui est le plus en danger. Les autres, soit ils en ont rien à foutre, soit c'est des mecs solides. Sheamus par exemple, voilà, c'était pas un soir, c'était pas son meilleur soir, mais dans la semaine prochaine c'est bon quoi, il revient au top.
C'est ça. Puis bon, à la limite on s'en fiche, il a déjà tout prouvé quoi. Donc,
double, voilà, attention, double flop pour Austin Theory. Voilà.
Pourtant, il en a eu des tops chez nous, mais ouais.
Mon top, je vais le donner quand même à cet opener, quoi. Il est complètement dingue. Et puis, que ce soit solo. Ouais, je vais le donner à solo. Je vais le donner à solo. Allez, je le donne à Roman. Je le donne à solo. Mais en fait, je le donne, voilà. Je le donne à tout le monde. Toute la Bloodline. Je veux pas donner la Bloodline. Non, mais c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Allez. Mais après, c'est vrai que ça met, en exergue aussi, ce déséquilibre. Tu as raison, ouais. La moitié de la vidéo,
c'est la Bloodline.
Donc du coup, en plus derrière, parce que j'imagine que c'était sans pub, toute cette intro, c'était probablement sans pub. Derrière aussi, les matchs, à mon avis, ils ont bombardé de pubs. C'est pour ça qu'on a eu des versions complètement écourtées, parce que peut-être dans un match de 5 minutes, ils ont dû balancer 3 coupures publicitaires, donc je peux te dire que pas vu grand-chose. Donc voilà. Et puis, pour ma note, t'as mis combien toi déjà?
J'ai fini par mettre 3,5 quand même.
Ouais, parce c'est que ça. La Bloodline, quoi. Ouais. J'étais parti là-dessus aussi. J'étais parti sur 3,5. J'ai dit, hors de question que je donne 4, parce que c'est pas juste de donner 4 grâce à la Bloodline. C'est un épisode de SmackDown, donc 3,5, ça me paraît tout à fait honnête. Allez, est-ce que ça te dit d'aller direction Buffalo, dans l'état de New York?
Mais ça c'est bien, on mange des bonnes wings à Buffalo, ça c'est
bon.
Ça.
Retrouver la Bills Mafia, ils ont des fans complètement tarés, qui aiment se faire passer à travers des tables sur les parkings lors des tailgates, les avant-matchs de la NFL. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient complètement fous pendant il y a eu un match avec des tables. Le public était complètement gueudin, mais on y reviendra plus tard. Là, ce soir, c'est Finn Balor qui débarque le 10 juillet. Il est au milieu du ring. On vient un petit peu se positionner par rapport à tous ces conflits là au cœur du Judgment Day. Il les avait Money in the Bank, c'était pas ouf. Son histoire avec Seth Rollins, c'est pas terminé. C'est un peu à cause de Damien Priest. Le Rhea Ripley Dominique arrive, il le stoppe. Rhea Ripley dit écoute, qu'est-ce que tu fous, Finn, t'as des problèmes, tu veux en parler, mais on peut en parler ensemble en coulisses, pas besoin de venir là, en parler devant tout le monde, ça reste entre nous, la famille, tout ça. Il dit ah, mon problème avec Damien, ça... enfin, mon problème, j'ai un problème avec, avec Damien, pas avec vous. Voilà, c'était mon moment. Et là, Rhea Ripley, un peu à la manière de Solo Sikoa avec Paul Heyman,
ouais.
Elle retire le micro à Finn Balor.
Ah, c'est pas que la mamie de.
Elle retire le Finn Balor, elle dit calme-toi, et Finn Balor, bah, il se calme et il s'en va. Voilà. Donc, mamie, là,
c'est la matriarche. La matriarche, exactement. Non, ouais, j'ai trouvé ça assez rigolo hein, comme interaction. Je trouve qu'elle se positionne pour préserver, on va dire, le calme au sein du groupe. C'est assez. C'est assez marrant et ça m'a fait penser un petit peu aux commentaires qu'on avait fait Raw la semaine dernière en disant, il serait peut-être temps qu'elle ait des choses à gérer parce que tu sais, Damien Priest, il a ses soucis avec sa mallette, la température monte un peu, Finn Balor, lui, avec les histoires pour le titre et puis il s'énerve, ça monte, Dominique, il enchaîne les matchs contre Seth Rollins, contre Cody Rhodes, ça devient sérieux. Et on disait, pour Rhea Ripley, il se passe rien et tout. Bon, bah, peut-être que elle, ses soucis vont être la gestion interne du Judgment Day. C'est son truc à elle. Il faut que garder son petit groupe de potes intact parce qu'ils aiment bien rigoler ensemble. Et là, elle sent que ça sent pas la rigolade.
Ouais. Donc... ça me fait penser à une série que je regarde en ce moment qui s'appelle Animal Kingdom, qui est inspirée d'un film australien où tu suis les aventures d'une matriarche, justement. Alors, c'est véritablement une mère de famille qui a quatre garçons, comme ça, et qui, c'est des foufous, hein, des fous furieux, des criminels, hein, ce sont des bad boys. Et elle manipule un peu tout le monde en interne pour justement garder la main dessus. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais il y a ce côté un petit peu garder les affaires.
Elle le fait de bon cœur, là, enfin, entre guillemets.
Elle le fait de bon cœur.
Elle a l'impression que ça part en sucette et elle veut pas que ses potes se chamaillent. C'est assez drôle comme dynamique parce que c'est un groupe de heels, mais qui se comporte comme une bande d'amis plutôt sympathiques.
Les méchants ont droit à l'amitié, Giscard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, jusqu'à un point de vue. Bon, bref, Ripley est toujours là. Hein. Elle dit d'ailleurs, c'est leur affaire, personne ne s'en occupe. Je demandais toujours contrôle d'euro. C'est la quelque chose de la plus dominante. Les latinoïdes, ils vont envoyer Seth Rollins au tapis ce soir. Dominique, il essaie de parler, mais il ne peut pas parler. Et Seth Rollins débarque avec sa petite assiette de wings. Hein. des légumes croquants.
Des légumes vapeurs avec.
Il vient avec son woke.
Il fait son petit woke de légumes et, à côté.
Il fait sa promo en même temps, il en fout partout sur la caméra, les morceaux de poulet, les ailes de poulet là, qui viennent s'écraser sur la caméra et tout, c'est dégueulasse. Tu viens insister un petit peu, voir le jugement des imploser, il rigole, et puis voilà, rendez-vous est donné pour battre Dominique ce soir. C'est pas fini, derrière, Damien Priest qui arrête Rhea Ripley et dit « Ah, ça c'est... » c'était pas prévu là, qu'est-ce qui se passe? Rhea Ripley dit, faut qu'on passe à autre chose. Toi et Finn, vous devez agir comme des hommes, qu'elle leur dit, tout simplement. Priest dit, ouais, j'ai déjà discuté avec Finn Balor. Finn Balor a pas voulu m'écouter, mais pour toi, Rhea, j'irai lui parler une dernière fois. Ouais. T'as vu ça quand même?
Non, la maman, hein.
Ouais, ah ouais, incroyable. Ouais. Elle gère les affaires.
Elle gère les affaires, madame. Hein. Ouais. En plus, ça lui suffit pas d'être une belle femme comme ça. Non, il faut en plus qu'elle est la poigne.
Ouais. Ouais. Donc voilà, tout le monde qui roule au pas là, sous les conseils avisés de Rhea Ripley.
Appuyé,
voilà, c'est ça. Elle ne fait pas que des suggestions. Elle dit, t'as intérêt à faire ça si tu veux pas que ça parte en couille, quoi, grosso modo.
Prendre une fessée,
Derrière, on a un tag team match entre Drew McIntyre et Matt Riddle, les nouveaux poteaux, contre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, avec Gunther qui est aux abords du ring. D'ailleurs, à un moment donné, grosse powerbomb de McIntyre sur Giovanni Vinci, en regardant droit dans les yeux l'Autrichien. La clé mort, mais elle ne passe pas parce que Kaiser intervient. L'arbitre est distrait, Gunther en profite pour choper McIntyre, qu'il le repousse, Riddle lui porte un énorme coup de pied, McIntyre est de retour, il fait sa claymore sur Vinci, 1, 2, 3. Pendant ce temps-là, en plus, Riddle fait son ankle lock sur Kaiser, qui est donc impuissant. Et puis derrière, il y a de l'embrouille parce que Gunther n'est pas content. Il critique Giovanni Vinci et Kaiser se barre avec Gunther. En coulisses, d'ailleurs, on les apercevra un petit peu plus tard en train de discuter quand même. Eux aussi, ils discutent. Donc finalement, c'est peut-être le thème de ce soir. C'est résoudre les problèmes grâce, enfin par la discussion, avec les mots tout simplement.
Le dialogue, c'est ça exactement. Ouais, bon bah écoute, ça je pense qu'on l'avait globalement un peu vu venir. Alors soit, peut-être que c'était annoncé et en fait on n'a rien vu venir, c'était juste que c'était écrit. Mais bon, on avait parlé la semaine dernière, hein, c'est le fait que Matt Riddle reste un petit peu dans le paysage, ça sentait quand même le prétexte pour pouvoir envoyer un petit peu de 2v2, histoire de temporiser entre Drew McIntyre et Gunther. Donc c'est vraiment ce qu'on a eu cette semaine. Et écoute, ma foi, c'était pas désagréable du tout. Je trouvais que c'était plutôt un match tag team assez cool. Belle reprise, bien en jambes, l'Écossais. Plutôt une bonne reprise. Je l'ai trouvé bien dans le ring. Mais globalement, tout le monde était bien. C'est-à-dire que, de toute façon, Imperium, moi, je trouve que c'est une équipe assez sympa à regarder catcher. Et puis, les deux autres ont bien fait le taf. Donc, OK. Petite dissension au sein d'Imperium. Alors ça, j'ai trouvé ça plus surprenant.
Oui.
Je ne sais pas trop ce qu'on cherche à faire là-dedans, parce que j'ai quand même le sentiment que c'est un groupe qui fonctionne bien. Alors, est-ce que c'est une... On est en train d'écrire un petit peu des prémices d'excuses à une potentielle défaite de Gunther par ça. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé... Là, pour le coup, j'étais assez surpris. Donc, intéressé, en tout cas pour le moment, intéressé de voir qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire avec ça. Mais c'était en effet une petite surprise. Donc bah oui, écoute, voilà, l'affaire continue et tout ceci, je pense, il n'y a pas eu de challenge officiel encore, hein, mais bon, voilà, tout ceci va nous diriger tranquillement, je pense, vers le match à SummerSlam. Donc nous attendons de voir comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir la première vraie bataille d'Atemi chop dans la tronche quand ils vont se confronter un peu au micro, les deux là, ça va être pas mal.
Ouais, exactement. Bon, écoute, on continue. Pas mal de séquences backstage, alors qu'on voit s'entremêler beaucoup de protagonistes. Alors du coup, je vais en parler maintenant pour pas perdre le fil. Mais on a justement la discussion, bah, c'est un peu le fil rouge en plus, tout simplement. Donc on va le respecter, un peu de respect, bordel. Damien Priest, Finn Balor, eh ben, qui s'explique, qui discute. Mais voilà, le ton est un peu... c'est un dialogue, mais un dialogue houleux, voilà, avec chacun dit ce qu'il a à dire. Rhea Ripley dit d'arrêter de faire des enfants, il faut parler les uns après les autres. Ah, je fais la maîtresse.
Ouais. Décidément.
Puis il s'exécute. Allez, à toi, Damien, oui, tu peux parler.
Vas-y. J'ai l'impression que tu es dans un cercle de paroles. Genre...
Mais oui.
Excuse-moi.
C'est génial.
Je respecte ta parole, vas-y.
C'est génial. Tu disais tout à l'heure, voilà, c'est un groupe de heel, mais avec... Il y a tellement de couches, toi, là, c'est le côté comique.
Tellement attachante, en fait, que oui, c'est parfois, c'est difficile.
Ouais. Là, donc, Damien qui parle en premier, il a la petite balle, ou je sais pas, la balle de parole, ou je sais pas quoi, ouais, pour pouvoir parler. Il dit, écoute, j'ai jamais voulu empêcher Balor de gagner, je voulais le voir champion... j'aurais jamais encaissé ma mallette sur toi, Finn. Enfin, sur Finn. Je sais même pas s'ils se parlent en direct ou si comme chez le psy, tu parles de l'autre à la troisième personne. Il faut revenir à ce qu'on est vraiment, prendre le contrôle de Raw. Après, vas-y, à toi, Finn, prends la parole. Dis, bah écoute, on peut essayer un nouveau départ. Mais c'est moi qui dois avoir cette relance en premier. C'est mon objectif là tout de suite maintenant. Voilà, Damien, il reprend la parole, il dit « Je suis d'accord », et les deux font la paix. Écoute, voilà. Les deux font la paix, voilà une situation qui aurait pu explosif, totalement désamorcée.
Absolument.
Damien encourage Ben Finn, il dit « Écoute, tu peux devenir champion ».
Oui.
Voilà, tout en disant « Bon, au pire, je le ferai avec la mallette ».
Ouais, j'ai trouvé que c'était une petite phrase un petit peu provocatrice quand même pour finir.
Oui,
mais oui,
je pense.
En effet, c'est « Je crois en toi, tu peux devenir champion », mais... Au pire, c'est couvert. Enfin, je ne sais plus comment il le dit, c'est difficile à traduire.
Ouais, mais oui.
De toute façon, le titre est assuré quoi qu'il arrive. Tu vois, et puis il monte sa mallette.
Et c'est bien justement cette petite provocation, comme tu dis. Ça reste comme dans l'esprit du groupe, hein, qui les mecs, voilà, ils sont ambitieux et puis ils ont certes fait la paix, mais ils ont chacun une carte à jouer. Donc, écoute, une réconciliation qui s'est plutôt bien déroulée. Donc, Rhea Ripley qui peut offrir ses services dorénavant, de modératrice. dans les
Ouais,
débats.
bravo, bravo à elle, en effet, c'était très impressionnant. Écoute, en effet, je pense que quand il va y avoir des sujets de tension maintenant, on peut peut-être recycler ça en gimmick de modératrice, de psychologue de couple, de thérapie de couple. Non, mais c'était sympa, encore une fois, on ajoute, comme tu dis, des petites couches à la vie de ce groupe qui est. Tu vois, on a beaucoup parlé de la Bloodline à SmackDown. À Raw, c'est un petit peu quand même le Judgment Day qui fait la pluie et le beau temps. Ils sont généralement quand même dans 3, 4 segments, des segments backstage, ils sont un peu partout. Alors le show est plus long, donc ça nous donne l'impression que c'est un petit peu plus dilué,
Oui.
mais globalement, ils sont quand même un peu partout. Et puis bah, eux aussi, ça marche quand même bien. Hein, on aime les détester parce qu'au fond, ils nous sont sympathiques et qu'ils font bien leur boulot. Donc c'est sympa, c'est sympa. Moi, j'aime bien tout ça.
D'ailleurs, c'est pas fini hein, parce que Kevin Owens et Sami Zayn, hein, vos champions unifiés tag team, sont interviewés. On leur dit, bah alors quoi, quel est le futur Kéo Sami Zayn? Je serais tenté de dire, oui, alors vous faites quoi la bande de branleurs,
Oui,
quoi?
le branleur, exactement.
Que c'est un peu comme Austin Theory. On tapait sur Austin Theory
Ouais,
en disant ouais
depuis
depuis
WrestleMania, c'est fini,
WrestleMania.
hein. Ouais.
Je crois les
Ils ont la chance
Canadiens.
d'être extrêmement over.
Oui, voilà, c'est ça. Ce que n'a pas Austin Theory, c'est que les mecs, juste, voilà, ils peuvent se contenter d'arriver en pantoufles et ils seront
Oui.
toujours over et ils auront, il n'y a pas de
C'est ça.
problème. Mais quand même,
Ça manque un peu.
justement, ils sont un peu en pantoufles, hein, un peu, ils ont sorti les charentaises des Canadiens et du coup, bah, ils nous disent, ouais, Sami Zayn, pas de problème, on peut affronter n'importe qui. Alors, il fait toute la liste des tag teams de la division et ils sont interrompus par Rhea Ripley et Dominik. Rhea Ripley,
Ouais. C'est vrai que
alors,
là,
c'est quoi le problème?
quand ils sont apparus, je me suis dit non, mais attends, c'est pas possible.
Elle peut pas s'en empêcher.
Ripley, qu'est-ce qu'elle a ce soir? Il faut qu'elle arrête là.
Kevin Owens qui s'emballe en disant voilà, encore une fois, ils arrivent alors qu'on leur a rien demandé. Il dit écoute, c'est ça le problème, justement. T'as pas dit et t'as pas donné le nom du jugement D quand t'as fait ta liste. Hein. Nous, on peut vous choper les titres quand on veut. Et d'ailleurs, on va prendre tous les titres ici. Voilà, hein, c'est notre show. Et ça commence ce soir avec Dom Dom qui va écraser la tête à Rollins. Jusqu'à ce qu'il en puisse plus.
Voilà.
Oh, d'accord, puis ils s'en vont, puis ils se barrent, quoi. Trop, trop bien. Derrière cette Rollins, il est là, il vient pour son match contre Domino. Rhea Ripley, évidemment, qui est là, hein, parce que tant qu'à
Eh oui.
faire, elle arrive. Elle vient l'emmerder pendant son entrée. Dominik attaque cette Rollins dans le dos, et puis là, débarque Damian Priest et Finn Balor pour attaquer Rollins. Et puis évidemment, les Canadiens qui débarquent. Et tout ça n'ira pas très loin puisque le jugement des bas en retraite et tout ça va être transformé en 3v3 pour le main event Giscale, un peu à l'ancienne. Voilà, un
Bon,
petit
voilà.
show, un petit main event booké à l'ancienne.
Tag Team Playa, exactement. Mais ouais, écoute, c'est une façon de faire qui était pas mal, en effet.
Ouais.
C'était bien fichu. Le match commence, mais on l'avait déjà plus ou moins eu, le match. Donc je trouve que c'est bien. Ouais, c'était plutôt intelligemment fait. Et donc on aura pour le coup quelque chose de plus frais et de plus main event worthy, hein, parce que c'était la critique qu'on avait fait justement à ce Seth Rollins, Dominic Mysterio la semaine dernière, qui était là pour le coup, qui avait sa bonne place dans la carte, je trouve, hein, qui
Oui.
était en milieu d'émission.
Ouais, ils nous ont écoutés,
Et
ils ont fait, ah, mais ils ont raison, on a fait
ouais,
oui.
ils ont raison. Et voilà, ça c'est un vrai main event, ça. Voilà, ça c'est
Ça,
sympa.
c'est du All-Star.
Ça
Voilà.
c'est du All-Star.
Bon, en parlant de All-Star, on a aussi des pas All-Star avec Ricochet. Hein, Ricochet qui arrive.
Oh là là, ouais.
Il vient refroidir l'ambiance. Hein, la douche, la douche, la douche, la douche, la
C'est la
douche.
douche.
Mais s'il essaye, il essaye. Il essaye. On peut pas lui reprocher de pas essayer.
C'est
Est-ce
belle
qu'il peut-être
chemise.
qu'il essaye, il essaye mal, mais il essaye quand même. Voilà, il dit voilà, il veut parler aux fans. Tout le monde le connaît. Voilà, moi je donne tout pour les fans. Il est là pour nous offrir des moments complètement dingues. Et ce soir, il est là pour parler de Logan Paul. Voilà, on a vu les clips, les vidéos, les extraits, les highlights. Logan. Tu viens, t'as fait beaucoup à AEW pendant ta courte, depuis que t'es là. Nos chemins se sont croisés, mais voilà, tu m'as attaqué dans ton podcast. T'as dit du mal, t'as mal parlé de moi pendant ton
Ça, on
podcast.
n'aime pas ça.
Et là, c'est pas les réseaux sociaux, là, c'est la vraie vie. Hein, c'est pas TikTok. Donc viens me parler. Logan Paul, il vient parler, mais il vient vite. Il dit, il veut pas rester trop longtemps à Buffalo parce que c'est comme une ville de pouilleux. Il s'adresse, il dit, ouais, mais c'est qui ce petit garçon au milieu du ring? On parle de Ricochet, le petit garçon, le petit chérubin. Écoute, t'es complètement ouf, voilà, t'es une machine à highlight justement, mais voilà, t'as gâché mon match à Money in the Bank, c'est quoi ce bordel? T'es un amateur, personne, Ricochet dit personne ne veut le voir près de la mallette. Si je serais pas, parce que l'autre il lui reproche quand même d'avoir été pas très pro en fait. Ce qu'avait balancé Logan Paul sur Ricochet suite à leur spot. Ouais. Donc c'était pas très kiffable cette histoire. Du coup, ça avait mis le feu aux poudres. Il dit bah si j'étais pas pro, je serais pas là. Hein. Ouais, c'est vrai ça. Alors eh. Bon. Ouais. Et donc il lance un challenge à Logan Paul là ce soir. Hein, la baston. La baston. Il dit écoute, faut pas parler de mal. Je vais pas être intimidé par un mec comme ça là, avec sa petite chemise là. C'est pas possible. Tu veux un match, mais ça pourrait être viral, mais on s'en fout. Là, c'est pas sûr, on n'est pas sur TikTok qui lui dit. Moi, je suis un catcheur WWE en regardant droit dans la caméra. Donc, ça vous plaise ou non, j'ai fait mes preuves. Ça n'a pas fonctionné, toi et moi. Et là, Ricochet, il arrive, hop, il court, il saute par-dessus à troisième corde pour retomber pile devant Logan Paul, comme ça, un très smooth. Hein, voilà.
Ah oui.
Bien sûr, là, on se croirait dans un film de Kung Fu. C'est que t'es cool, hein, bah justement pour TikTok, super, mais bon, on s'en fout de TikTok, là, que c'est ce bordel. et puis Logan Paul, il...
comment pourrir le spot.
C'est ça, mec. Et puis Logan Paul, évidemment, il dit ça, mais il attaque Ricochet, mais Ricochet l'évite et attaque Logan Paul pour l'envoyer dans ses 23, dans ses 36, dans ses 42. Carrément, allez, c'est parti. Bon, bah voilà, Ricochet versus Logan Paul. On a notre programme aussi pour SummerSlam, hein. C'est parti, voilà.
Manifestement.
Voilà. Avec des gros highlights. Ça va être des highlights. Gros,
ouais, ça va sentir le match. Alors pas forcément mes matchs préférés, hein, clairement. Moi, ça me fait marrer quand c'est un spot parmi plusieurs choses, hein, comme le Money in the Bank, le Royal Rumble, les choses comme ça.
Ouais, mais là, ils vont en faire un match là. Hein.
Mais là, ils vont en faire un match. Moi j'ai trouvé que ce segment il était très compliqué pour Ricochet. C'est
trop long.
C'est dur, non mais bon, de toute façon on le sait, hein, quand on lui donne le micro, le pauvre, c'est souvent une catastrophe. Mais alors là, lui donner le micro contre Logan Paul en plus, c'était... En fait moi j'ai trouvé terrible ce segment parce que je trouve que ça... Ça a creusé un fossé, je trouve, entre les deux, qui est énorme. Et tout ce que disait Logan Paul, en fait, je l'aurais pas écrit cette promo concrètement. Je pense qu'elle était mal écrite parce que déjà, ne serait-ce que pour le petit truc un peu anodin qu'on a vu là juste avant, que tu as mentionné juste à la fin quand tu disais tu as Ricochet, il fait un super spot qui est en plus pour le coup un spot qui était vachement apprécié de ses fans à lui et des fans un petit peu hardcore de la première heure parce que c'est un spot qu'il avait fait à NXT qui avait fait vachement le buzz contre Velvet in Dream qui était un spot un peu iconique on va dire de son run à NXT de le faire balayer comme ça d'un revers de la main par Logan Paul. Je trouve que c'est ok, c'est dans le personnage, mais en fait je pense que tu dois pas écrire des trucs comme ça parce que c'est vachement, ça casse tout le travail en fait de la promo. C'est-à-dire que Ricochet, il est censé, il va pas gagner sur le terrain du micro. Il est censé gagner justement sur son côté incroyablement athlétique, highlight reel comme il dit. Mais en fait, quand tu lui laisses même pas ça, ça devient, il est à poil quoi. En fait, c'est terrible. Et il s'est fait pourrir pendant tout le segment. En effet, quand Logan Paul arrive, si tu regardes. Il y a un petit garçon au milieu du ring là. Je vais certainement pas accepter un match. Je sais plus, à un moment il dit certainement pas accepter un match contre un mec qui est en chemisette et 80% de son visage c'est son front ou je sais pas quoi.
Oui.
Non mais quoi, tout était. En fait, je sais pas dans l'histoire si on a filé 2-3 bullet points à Ricochet qui était nul et on a dit à Logan Paul vas-y écris ce que tu veux. Mais enfin il se battait pas trop armes égales j'ai trouvé. Et globalement je trouve que ça ne servait pas la hype d'un match parce que moi je sors de là en me disant tu vois j'imagine un petit peu en plus que dans l'état d'esprit des décideurs à la WWE quand tu fais venir un mec comme Logan Paul c'est parce que tu veux essayer de mettre plus Dieu sur le produit, tu considères qu'il a un pouvoir d'attraction qui est énorme, que tu veux faire regarder un peu les fans de Logan Paul, tu veux les diriger vers la WWE et tout. En fait, et là, c'était un peu du fan service Logan Paul, mais qui desservait le produit WWE en fait plus que plus. Je trouve que c'était voilà, c'est pour ça que c'était mal construit. Parce qu'en fait, là, les fanboys de Logan Paul, ils se disent ouais, mais ils sortent de là, ils se disent ouais, en fait, Ricochet, c'est un énorme loser. et pourquoi est-ce que j'aurais en fait le on accordait du crédit presque à Logan Paul. On disait, ouais, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de regarder un match entre les deux? Et puis, ouais, et puis dire un autre truc aussi qui était horrible. Et il a raison, mais Ricochet, il est tellement nul au micro qu'il commence à essayer de répondre. Ah oui. Et t'as tout le public qui fait Logan sucks. Et le mec, tout de suite, l'autre, il perd pas une miette, hein, il rebondit, il dit, tu vois, oui. T'es en plein milieu de ta promo. Alors déjà, il utilise le terme promo, c'est un peu tendancieux. Mm. Il dit, t'es en plein milieu de ta promo et tout le monde parle que de moi, tu vois, t'es vraiment nul et tout.
Et il chante quand même mon nom, ouais, c'est ça.
Il chante quand même mon nom. Alors tu sais, moi, j'étais là, j'ai levé les épaules, je dis, bah ouais, il a raison. Mais, ouais,
oui, t'as raison, ça disait tout, quoi. Là,
ça dit tout. Quoi. Donc, pauvre Ricochet, ouais, il est cata, mais bon, écoute, il est cata au micro, on le savait. Mais ouais, très très mauvaise entrée en matière, je pense. Ils n'auraient pas dû aller sur ce terrain-là aussi vite, parce que je trouve que il va falloir maintenant ramer un peu à contre-courant pour redonner un peu de peps à cette rivalité qui part à sens unique, quoi.
Ouais, bah là, attendez-vous à quelques semaines. Je ne sais pas à quel point Logan Paul va apparaître dans les prochaines semaines jusqu'à SummerSlam. Mais c'est sûr que la prochaine apparition, Ricochet, il va faire des trucs complètement ouf pour nous impressionner, quoi. Parce que... Ouais.
Le truc, c'est que j'ai peur qu'on aboutisse à un truc que j'aime pas trop, qui est vraiment le match de flip-flop, galipette, Sopérieux et compagnie, et qui est que ça, tu vois. Et c'est vraiment des matchs, j'ai pas très très envie de voir ça à la WWE.
Je sais pas trop comment ils vont construire ce match, parce que Logan Paul, il a ce espèce d'angle-là un peu étrange où il dit qu'il n'est pas une machine à highlight, il est le highlight.
Ouais. Ouais.
C'est un peu étrange parce qu'en fait, bah, si justement, enfin c'est pas.
Ouais, tous ces faits d'armes pour l'instant, c'est des trucs de ouf, quoi.
Ouais, donc qu'est-ce qu'il va arriver entre les cordes? Qu'est-ce qu'il va proposer? Est-ce qu'il va vouloir nous proposer un truc différent? Il dit, tu sais, maintenant il est une superstar de la WWE, donc quoi? Qu'est-ce qu'il va nous proposer entre les cordes?
Il a montré contre Seth Rollins, contre Roman Reigns, qu'il était capable d'ajouter un peu de liant dans son catch. Hein. Il est pas du tout inintéressant. C'est en fait. Je pense qu'ils sont capables de faire un match pas mal, c'est juste que j'ai peur qu'ils tombent dans la tentation de faire exactement ce que j'ai pas spécialement envie de voir, et que je suis très content que les autres fédérations, on va dire, se gardent ce précaré, entre guillemets. J'ai pas très très envie de voir ça à SummerSlam, mais bon, on verra.
Ouais. Bah écoute, à SummerSlam, je sais pas si t'auras envie de voir ça, mais la rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus continue. J'ai achevé, moi. Becky Lynch sera affrontée Zoé Stark. Zoé Stark qui va se défendre pas mal. Elle va notamment bloquer deux disarmeurs, le super kick qui ne suffira pas. On fait des roll-ups, un coup à toi, un coup à moi, en tirant sur la corde à chaque fois. Mais l'arbitre voit tout. Hein, l'arbitre voit tout. Il avait les yeux partout. Sauf qu'elle ne voit pas Trish qui distrait Becky Lynch. En tout cas, Becky se laisse distraire par Trish. Et Stark en profite pour tout simplement tenter de placer son finisher. Et à la fin, alors que Becky attaque Trish qui est ringside, et ben Stark, elle fait un petit paquet, un petit roll-up pour la victoire. Incroyable. Victoire de Zoé Stark, mais presque pas étonnante, cette victoire, au vu de ce qui nous attend pour SummerSlam, mon bon Giscard. Et je sais que tu en salives d'avance.
Oh là là, qu'est-ce que j'en salive d'avance.
Tu peux utiliser une, enfin, te contenter d'une minute sur ce segment. Il n'y a pas aucun souci. Hein.
Tu as raison. C'était nul. Voilà, je trouvais que c'était nul. Bravo à Zoé Stark, qui fait plutôt un bon match.
Bravo à Zoé Stark.
J'adhère pas à la décision de booking. Je trouve que c'est un petit peu tôt pour que Zoé Stark chope une victoire, même par triche. Ouais. Hein, je m'en fiche. Alors par triche, il n'y a pas de jeu de mots. face à Becky Lynch. C'est-à-dire que les heels ont tout loisir post-match ou dans les coulisses de one-up Becky Lynch, entre guillemets, mais que Zoé Stark, une rookie, batte, on va dire, sur distraction Becky Lynch, au bout d'un match assez accroché en plus, je trouve que c'est pas du bon booking. On connaît, le endgame, c'est Trish Stratus contre Becky Lynch, donc je trouve que cette victoire n'apporte pas grand-chose, parce qu'elle dévalue un petit peu le momentum de Becky Lynch, qui va être une des protagonistes principales, et voilà, encore une fois, je pense qu'elle mériterait plutôt de rester forte et de se faire attaquer par derrière pour que le numbers game, on va dire, soit un des éléments de la storyline. Mais je trouve que cette défaite est pas très très pas très opportune. Donc je continue de ne pas trop apprécier tous ces segments. Ouais.
Mmh. Ouais, complètement. Bon, on a une petite séquence coulisses entre Rollins, Owens et Zayn qui tapent la discute. Voilà, Owens dit
Voilà.
qu'il va tout casser. C'est le plan ce soir, ils vont tout péter. Et casser des gueules, casser des nez et gagner tout simplement. Chad Gable et Otis sur le ring ce soir. Cérémonie
Ah.
de graduation pour Maxine Dupri ce soir. Voilà, effectivement, elle arrive, voilà, pour cette cérémonie, la remise des diplômes. Gable, il est. Alors c'est pareil, hein, je ne sais pas si tout le WWE Universe a capté encore qu'ils sont babyface dorénavant. Parce que
Oui,
les réactions,
en même
les, ouais,
temps,
les réactions étaient. Ils étaient un peu perdus, les gens. Hein,
en même temps, il démarre, il dit à tout le monde de se taire. Il dit chaud,
Oui. Mais maintenant, quand il dit ça, tu dois être content qu'il te le dise, en fait, c'est
oui, c'est
ça.
ça. Tu étais censé être content qu'ils te le disent.
Donc là,
Mais on sait.
c'est un peu étrange. C'est un petit peu étrange. Mais une belle cérémonie, en tout cas. Ravi d'y
Ah,
avoir
magnifique,
assisté. Première
magnifique.
femme, hein,
Oh.
première étudiante, tout simplement, à la Alpha Academy, à passer son diplôme. Elle a bien suivi le coach. D'ailleurs, voilà, qu'elle avait fait cette magnifique, hein, combinaison arm drag et suplex derrière
Ah,
sur
ça a été
Valhalla. Là, c'était
rappelé.
beau.
Eh
Ah
oui.
ouais, ça a été noté. Ça lui a valu un A+, hein, une mention. La mention, tout
Je pense que
simplement.
c'est grâce à ça qu'elle a eu la mention.
Ouais. Maxine donc est honorée. Au début, elle dit bah voilà, c'est vrai qu'au début on n'a pas trop matché. Elle pensait que Chad Gable c'était un petit troll, mais elle avait tort. C'est un bon
Non, alors,
mentor.
oui, non, non, attention, c'est ça qui était très drôle, c'est qu'elle a dit, elle pensait que ce n'était qu'un petit troll, mais pas que.
Ah voilà,
C'est
mais
ça
pas
qui était
que.
drôle.
Ouais,
Parce que, en fait,
je crois.
c'est plus que ça, tu vois, mais ça reste
Oui,
quand même un troll.
ça reste un troll. Mais en plus de ça, c'est un bon mentor, un bon prof,
Un
hein, tout
bon
simplement.
coach.
Le prof que chaque tout élève rêverait
C'est
d'avoir, tout
vrai.
simplement. Et puis elle remercie aussi le beau Otis, sa muse, son pilier, sa colonne vertébrale, sans qui rien ne serait possible. Et puis le W Universe qui l'a aidé à devenir voilà, la star qu'elle
C'était
est
un vrai speech de
aujourd'hui.
Hall of Fame, hein, c'était
C'était
marrant.
beau, c'était beau, c'était beau. Et puis la petite tradition, la jaquette. Comment ils appellent ça? Vanity Jacket, je crois, un truc comme ça, la veste
Ah
universitaire. La petite
oui,
veste
je vois.
universitaire, l'Alpha Academy, voilà, qui est déposée sur les épaules de Maxine Dupri. Mais derrière, les Viking Raiders débarquent et attaquent tout ce beau monde. Ils ruinent la cérémonie. Ils repartent avec la veste d'Alpha
Oui, ils la volent.
Academy. Aïe, aïe, aïe.
Oui,
Honteux.
vole la veste, c'est honteux.
Félicitations à Maxine Dupri.
Voilà, félicitations à Maxime Dupri, segment très rigolo, je trouve que ça m'a fait... Voilà, on a retrouvé un petit peu de... On réclamait la semaine dernière, je trouvais que ça faisait beaucoup de matchs, de combinaisons entre les équipes, là ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs on se disait, bon, ce serait peut-être cool qu'il passe peut-être un peu autre chose. Là on est, voilà, on était sur autre chose, de la loufoquerie, du segment qui se prend pas au sérieux, je trouve que... Ça me manquait avec la Alpha Academy, donc super. Par contre, ça veut dire quand même qu'on en a pour au moins encore une ou deux semaines parce qu'il faut quand même récupérer la veste. Donc,
Ouais, oui, bah,
mais bon.
j'appelais de mes voeux sans y croire que les Maximum Male Models allaient être ceux qui allaient intervenir.
Eh ouais, mais
Pour aller dire,
malheureusement,
mais Maxime, qu'est-ce que t'as foutu?
peut-être
Tu nous as
après.
oubliés, nous. Et ils auraient volé la veste, qu'ils auraient trouvée hideuse, évidemment, parce que voilà, c'est pas du tout. On aurait pu avoir la même histoire, mais
C'est
avec les
vrai,
Maximum
c'est
Male
vrai.
Models, ça aurait été beaucoup mieux.
Non, mais là, ils étaient trop contents. D'ailleurs, Corey Graves, qui était trop content de dire que, ah oui, c'est ce que font les
Oui,
Vikings. Hein. Ils
il
pillent.
pille.
Donc, ils ont pillé. Ah, quel butin. Oui.
Comment vont-ils se le partager?
Ah
Ça
là, je ne sais
va
pas.
être fini. Allez, on reste sur une bonne note, la bonne humeur et la joie avec un match entre Shayna Baszler et Emma. Et ouais. Et Baszler, bah, elle a battu
Baszler.
Emma. Elle a battu
Eh
Emma
oui,
avec le kiff de la
voilà.
cloche. Elle s'était un petit peu embrouillée backstage. Et puis
Non. Alors,
derrière.
est-ce qu'elle est face, est-ce qu'elle est heel? On ne sait pas, elle non plus.
On ne sait pas, le public non plus ne sait pas, et je pense qu'ils savent
Ouais.
encore moins qu'avec l'Alpha Academy, Shayna Baszler. On en avait parlé, et là, alors Giscal, je pense qu'on doit rendre à Giscal ce qui est à Giscal.
Ouais.
Je pense que cette séquence avec Shayna Baszler t'a donné raison, la semaine dernière, dans le grand débat, animé mais respectueux, entre toi, Giscal, qui disait, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, Shayna Baszler, tout le monde s'en fout. Et d'autres personnes en interne, au sein de Catch-Up, que je ne mentionnerai pas, je ne voudrais pas faire du tort à Papy, qui disaient, mais c'est formidable! Shayna Baszler, quelle belle promo! Quelle belle promo!
Oui.
Ça va être complètement le feu! Bah, je sais, le feu est dans la poubelle.
Waouh,
Le feu est dans la
feu.
poubelle.
Ouais.
Dans le
Ouais,
conteneur,
c'est fou.
voilà.
Vous avez vu à quel point le public était transporté par le personnage de Shayna Baszler qui s'est libéré de ses chaînes. C'est beau de voir ça. Hein. Et puis, surtout quand on la fait toujours catcher comme une heel, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué cette histoire. Il hein. y a du chemin. Hein. C'est long. C'est long. On parle de Trish et de Becky, mais alors celle-ci elle va être longue aussi. Hein. Ouais. Bah écoute, c'est sans surprise. Hein. C'est sans surprise. En plus, il lui envoie une adversaire. Son adversaire elle-même. On ne sait pas vraiment d'ailleurs qu'est-ce qu'elle est actuellement. Donc très difficile de se positionner. Un match d'une pénibilité absolue, mais qui heureusement était très court. Bah, c'est à l'image, je pense, de ce dont on va avoir le droit, ce qu'on va avoir le droit là sur les prochaines
Ouais,
semaines.
ça me fait peur. Ça me fait peur. J'avoue que comme souvent, je me mettais voilà au milieu du pont en me disant bon, voilà, ok, c'est pas ouf, mais j'ai l'espoir que voilà, peut-être il va se passer quelque chose. Là, je quitte le pont, je rejoins la berge de Giscale. Et je dis, écoute, désolé, effectivement, pardon d'avoir douté. Je le sens pas là. Ça me fait peur, ça me
Ouais.
fait peur. Ouais,
C'est
aucune
rare, on est bien de ce
réaction.
côté-là, ouais, tu
Ouais. Cody Rhodes, il
vois.
vient. Oh, il a des choses à dire. Oh, putain. Il m'endort, moi, Cody. Hein. Je vais être honnête.
Ah ouais?
Ouais, un peu. J'en ai déjà parlé. Hein. C'est pas la première fois que je
Ouais, je sais,
dis.
je sais.
Il faut qu'il fasse.
Il a un
Mais c'est trop.
verbiage
Il est
très
à
très.
Buffalo, le mec. Hein. Il est à
Ouais, il
Buffalo.
faut.
Le public.
Ouais. Tu vois, c'est
Le
Frolins, lui,
public.
il avait tout compris, hein. Il arrive avec son plateau de wings, il en a foutu partout.
Je ne sais pas si Cody Rhodes doit arrêter d'être vegan et se mettre à manger du poulet, mais bon, il est dans sa bulle, hein. Il est dans sa bulle,
Ouais.
Cody Rhodes. Il est dans sa bulle et la communion avec le public, je suis pas sûr qu'elle passe forcément avec ce genre de promo très longue, voilà, très verbeuse, avec beaucoup de vocabulaire et puis des chemins détournés. Il nous raconte toujours des histoires
Toujours des
là, ça...
métaphores.
des métaphores sur des métaphores dans des métaphores. Le mec, c'est Inception. On sait plus où on est à un moment. Voilà, on perd le fil. On perd le fil. Bon, grosso modo, ce qu'il nous a dit, c'est que voilà, il s'adresse aux gens derrière. Enfin, voilà, d'habitude, il s'adresse aux gens à la caméra. Là, il se retourne, il parle au public. Il dit voilà.
Non, ça, il aime bien faire ça.
Ouais, il se retourne. Enfin, voilà, il joue. Après, côté dans la salle, peut-être. Voilà, c'est cool. Enfin, ouais, le côté, il sait jouer avec la foule. Il sait jouer avec la foule. Il dit voilà. Des fois, il y a un mur entre le ring et les fans, mais pour lui, les fans sont sur le ring avec lui. Voilà, tout ça, c'est réel. Il parle d'objectifs. Dit que comment quelqu'un lui a dit, un mec à Londres lui a demandé comment il se sent là, avec voilà, cette fusée qu'il a au cul. Là, sur un mec voilà, en sortant d'un pub complètement
Ouais,
bourré
sans doute.
et dans une ruelle sombre de Londres, tu sais. C'est le fantôme du futur. En fait, c'est un vieil alcoolique. Qui travaille au port et dit ah, ça l'a hanté, toi, il se pose la question, voilà, chaque jour la foule est complètement folle, chaque fois qu'il se déplace c'est sold out, mais voilà, mon élan était un petit peu ébranlé à cause de Brock Lesnar, et voilà, et Brock, bon, Brock qui n'est pas là ce soir, hein, mais
Non.
tout le monde a un Brock Lesnar dans la vie, qu'est-ce qu'il
Oui.
raconte?
Ouais, j'ai pas
C'est un
trop
peu
compris ce passage.
étrange, oui, genre, du coup j'étais là, mais qui est mon Brock, moi? Vraiment, ça va travailler. Je suis dit, bah, tant
Ouais,
que.
j'ai
Parce que
cherché
c'est
mon
pas rien
Brock et
quand même,
tout.
Brock Lesnar, c'est quand même un mec.
Non, non, si. C'est-à-dire que si j'avais un Brock Lesnar dans ma vie, je serais au courant, je pense quand même.
Oui, déjà, j'aurais peur de sortir tous les jours quand c'est
Oui,
mauvais.
c'est ça, exactement.
Il dit, voilà,
Mais je crois que
pour le
les
verre.
Brock Lesnar, oui, voilà,
Ouais,
peuvent être des concepts, exactement.
c'est une métaphore, mais une métaphore un peu étrange. Voilà, les gens qui ont le vertige, voilà, c'est Brock Lesnar.
Un Brock Lesnar.
Les dettes des étudiants, la dette étudiante, c'est Brock Lesnar. J'ai vu, qu'est-ce qu'il raconte?
Il a dit ça aussi,
Oui,
putain.
oui, oui. Il a
Ouais,
parlé de la dette
je pense qu'il
étudiante aux États-Unis.
m'a un peu perdu. Ouais,
Oui,
c'est vrai.
tu
Non,
vois.
mais même moi, je reconnais, il m'a un peu perdu sur celle-là. Ouais.
Alors, on a tous voilà, un mauvais patron. Bref, c'est Brock. On a tous un Brock Lesnar. Alors, ça n'a rien à voir, en fait.
Non, non.
C'est
C'est vraiment
complètement
pour son imagerie,
démesuré
une souplesse
comme
arrière.
comparaison. Il parle même d'un mauvais virage dans un marathon. À un moment, il parlait de ça. Il a
Ah
dû faire
bon?
référence à un truc. Oui!
Oh là là, bah en fait, je pense que ouais, je pense qu'il m'avait assoupi, hein.
Ouais,
Il avait
je pense
autant de détails
qu'il
que
t'a
moi.
complètement endormi, quoi. Il
Ah,
dit,
il est
bah,
fort, il est fort. Ouais.
c'est son pouvoir.
C'est le fakir. Ouais, c'est ça.
Parce qu'il se fait pas ouater, en fait. C'est son
Non,
pouvoir. Il arrive à
non,
sortir
c'est ça
des
qui est.
promos
C'est vrai qu'il se
imbitables,
fait ouater.
mais il se fait pas
Hein. Ouais.
ouater, quoi.
Puis à la fin, il part sous les vivas. Hein.
Et à la fin, voilà, comme ah, oui, tout le monde applaudit, tout le monde se réveille et tout le monde
C'est un
applaudit.
magicien. Ouais. Il hypnotise tout le monde et puis.
Et voilà, donc il veut un match avec Brock Lesnar à SummerSlam.
On avait compris.
Donc rendez-vous lundi, oui, c'est ça, rendez-vous lundi prochain pour se retrouver. Et puis on va se mettre sur la tronche et puis on pourra passer enfin à autre chose. Parce que le prince, c'est lui le prince, sera le prochain dans la file. La file de quoi ? La file d'attente, hein, peut-être.
On ne sait pas.
Et voilà. Et tout le monde applaudit.
Et tout le monde a applaudi et tout le monde
Il a endormi. Quoi. C'est les spectacles de magie à la. Toi, il a endormi quand même 20 000 personnes.
C'est très fort. Et puis à la fin, il leur a dit attention, maintenant je vais claquer des doigts, vous allez vous réveiller et vous allez tout dire mon nom.
Cody. Incroyable. Le prestige.
C'est ça, le prestige. C'est un prestidigitateur. Je t'avoue.
Oui, voilà. En faisant le play-by-play de la promo, je me suis dit, je vais lui faire le play-by-play à la promo, Giscard. Il va voir s'il a vraiment tout compris.
T'as raison, parce que sinon, j'aurais encore dit, ouais, super promo de Cody, quel homme et tout. Alors qu'en fait, t'as raison, je l'ai peut-être mal écouté. Mais bon, c'est sûr que c'est pas les moments les plus kiffants, les promos de Cody. Hein. De toute façon, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand il est dans les cordes, qu'il fait son héros, quand il se fait tabasser, quand il y a de l'action, quoi. Quand il fait quelques petites envolées. Tu vois, c'est souvent les story time avec Cody, c'est vrai que c'est un peu chiant. Quand il fait des promos face to face avec un autre catcher, ça c'est sympa. Généralement, ça finit toujours de la même façon. C'est ouais, pourquoi tu parles de mon père ? Mais globalement, c'est quand même plus fun à suivre et plus enthousiasmant. C'est vrai que quand il est tout seul face micro, face caméra, on a souvent un peu des segments comme ça. Mais il faut reconnaître pour une raison que, tu vois, nous n'arrivons pas à mettre le doigt dessus, pour une raison que nous ignorons, peut-être des substances illicites dans les wings des travées du stade de
Buffalo. Comment sont nourris les poulets là, dans l'état de New York hein. On va savoir, le régime alimentaire des poulets.
Il se trouve que malgré tout, il rentre sous les vivas de la foule et il part. Les femmes jettent leurs culottes, il y a des bouquets de fleurs qui volent. C'est... Donc, écoute, je sais pas, mais il a quelque chose. Hein.
Il y a quelque chose et on ne sait pas quoi, mais ça marche. Donc voilà, une promo à la Cody Rhodes. Il nous a encore fait un petit spectacle d'illusion. En déplacement dans toutes vos villes. Bientôt à l'hypermarché de Guingamp. Sur le parking du Super U, Cody Rhodes, mon spectacle de prestidigitateur. Voilà. Il va peut-être endormir 45 000 personnes sur les Champs-Élysées, peut-être, toi, peut-être comme ça, un truc comme ça, au Stade de France, 60 000 personnes endormies par de Cody Rhodes. Thomas Ciampa contre Le Miz, c'est une affaire qui reprend un match entre Le Miz et Thomas Ciampa. Tommaso dans un no disqualification match, un no DQ, donc je sais pas si c'était une bonne idée pour Le Miz d'avoir ce genre de stipulation, parce que Tommaso Ciampa c'est un gueudin, c'est un vrai fou dans sa tête, donc il arrive, il matraque le pauvre Miz à coups de couvert de poubelle, les running sticks, les tables qui sont sorties, Ciampa qui fait un énorme backdrop à travers la table, et à la fin c'est Bronson Reed qui revient aux affaires, il dégage Ciampa, il lui fait la senton et le tsunami et la victoire du Miz derrière, bien content de voir Bronson Reed de retour dans ses jupons. Simple, efficace,
ouais c'est ça, écoute, ok, c'est un programme de mid-card moi qui me va bien, ça évolue. Chaque semaine a sa petite péripétie, donc ça se suit. J'aurais pas craché sur peut-être 3-4 minutes de moins quand même. J'ai trouvé que le match était assez long, mais sensiblement c'était plutôt quali. En effet, le Miz qui était sur un terrain qu'il maîtrise pas, tu n'aimes pas dans son jardin qui lui casse la figure. Et puis finalement, à la fin, comme l'a dit Corey Graves, décidément, mais quelle est la profondeur des poches du portefeuille du Miz, c'est incroyable. Il a des deep pockets, comme il a dit. Bronson Reed qui revient dans le paysage. Donc ok, même si j'avais l'impression qu'avant Money in the Bank, Bronson Reed avait plutôt des velléités de voler un peu de ses propres ailes. On pourrait se dire que c'est un petit retour en arrière. Mais bon, écoute, attendons de voir, parce que le Miz n'est pas à l'abri de se prendre un tsunami lui aussi dans 2 semaines. Donc ok, moi j'aime bien. Ça mobilise des mecs que j'aime bien en mid-card. Donc ça me va.
Oui, petit retour en arrière, mais des fois, il faut savoir retourner en arrière hein, pour au moins avoir un chemin. Un objectif. Et Tommaso Ciampa versus Bronson Reed, Je me dis
Pourquoi
pourquoi
pas, hein.
pas, pourquoi
Et oui,
pas.
moi je suis assez d'accord avec ça aussi. Hein. Ça peut donner une opposition très sympa, hein, parce que un gros déglingo, petit gabarit contre le mouse, voilà,
Oui.
ça peut donner un truc pas mal. Ouais.
En coulisses, Sonia Deville et Chelsea Green demandent pourquoi Annelies Morgan et Rodriguez elles sont là ringside pour le match de ce soir. Dit bah écoute, on vient observer la compète, hein, tout simplement. On
Voilà.
rappelle que Chelsea Green et Sonya Deville sont les first contenders. Et Rhea Ripley arrive. Il dit, ah, je vois qu'il y a un dialogue à faire, une modération.
Confrontation.
Ah, ce gimmick.
Là aussi.
Quand tu fais
C'est
l'analyse coup sur coup des deux shows, tu te rends compte que là, Rhea
vrai que
Ripley,
t'es
elle aime la
partout.
modération de modérer les débats, quoi.
T'es là, putain. Ouais, c'est vrai.
Eh
T'es partout.
ouais.
Dès
Oui.
qu'il y avait une embrouille, hop, on m'a appelé.
Ouais. Et Chelsea Green qui fait attention, hein, parce que nous, avec Rhea Ripley, on va dominer
Ah
toute la division tactique. Enfin, voilà, elle se range Rhea Ripley dans la poche, dit comment ça, nous?
ouais.
Elle,
Je
ça
mets pas
se
ma vie
bat.
dans la poche comme ça.
Ouais. Et puis, on a un petit face-off entre Rhea Ripley et Rodriguez, hein, il me semble, une fois de
Ouais, tu sens que ça
plus. Ouais.
couve. Hein.
Bah
Ça...
ouais, mais il serait temps, il faut qu'il se passe quelque
Hein,
chose.
ouais, il s'attend que ça arrête de couver. Ouais, ça y est,
Ouais,
là, je
ouais,
pense.
ouais. Faut pondre maintenant. Enfin,
Bon.
il va essayer, on va pondre, c'est
Allez.
avant de couver, mais faut que ça éclose, faut que ça éclose. Voilà, faut que ça éclose. Voilà,
Exactement.
le mec, faut qu'il retourne en cours de biologie, quoi. C'est pas possible. Retourne à
Oui,
l'école, monsieur. Retourne à
il a
l'école.
raison.
la poule ou l'œuf en premier, hein? Bah oui, qui saura dire.
Vraie question, ça.
Sonia Deville,
Normalement,
Chelsea Green, ce soir, elles affrontent la tag team préférée de Giscal,
là. Eh
Casey and Casey. Eh ouais, eh
oui.
ouais, eh
Oui.
ouais. Qui, bah voilà, qui font toujours leur catch spectaculaire, hein, d'équipe avec plein de moves à deux, qui est toujours aussi sympathique. Mais à la fin, voilà, Sonya Deville qui se débarrasse de Kayden Carter et Katana Chance qui chope Chelsea Green pour un tombé très rapide, mais l'autre, elle contre tout ça avec les pieds sur les cordes pour le compte de 3. Voilà, donc les first contenders qui ont moins le bon goût, ou plutôt les bookers qui ont moins le bon goût de ne pas faire perdre les first contenders.
Ouais, ça,
Je crois qu'il y aura un match la semaine prochaine, j'espère. J'aimerais bien que ça change rapidement là. Ouais, j'aimerais qu'elle
pas
gagne.
de panique, c'est la semaine prochaine.
Ouais.
Ouais, j'en attends beaucoup de ce match, hein. Je te cache pas que j'ai beaucoup d'espoir placé dans ce match-là. Bon, par contre, c'est vraiment, bon, encore une fois, hein, moi j'avais bien appuyé là-dessus la semaine dernière, mais enfin, je trouve que c'est l'illustration même de ce qu'on a dit, hein, c'est que le match de la semaine dernière ne servait à rien. Ils
Mais
ont
oui,
refait.
ils ont fait le match qu'il fallait faire.
On refait le match qu'il fallait faire, sauf qu'ils l'ont fait en 2 minutes. Donc en fait, ils ont choisi le moins bon des deux mondes, en fait. C'est au lieu de faire un seul match compétitif pour mettre un peu en valeur Casey and Casey et tout, et faire un beau match de first contender, un truc bien sympa qui va mettre toutes les deux équipes bien en valeur, tout ça. Bah, finalement, ils ont choisi de diluer ça la semaine dernière dans un gauntlet match de merde avec tous les fonds de tiroir, et cette semaine de quasiment squasher Casey and Casey en 2 minutes, même si c'est une tricherie. Bon, bah voilà, elles se sont fait balayer en 2 minutes sans être du tout une menace. Donc en fait, c'est nul. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste pris le temps la semaine dernière de faire un beau match? J'ai trouvé que ce match était quand même n'apportait vraiment pas grand-chose. J'ai pas eu le sentiment que Sonya Deville et Chelsea Green sortaient de là en tant que grosse menace, et plutôt les deux petites jeunes, elles faisaient plutôt ouais, un peu perdreau de l'année, quoi. Donc ouais, personne n'y gagne vraiment, je trouve.
Ouais, non, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Tu as
Récemment, il y
raison,
a une...
elles ont choisi les deux mauvais choix, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est,
Suffisait de nous écouter la semaine dernière. Ouais.
ouais. Heureusement que Samantha est là, quoi. Parce que
Heureusement que ça
voilà,
m'était
tant
là
que
avec
Samantha est
Chelsea.
là, et avec Chelsea Green, voilà, tant que tu as les deux, c'est très agréable à l'oreille. Hein. Ça fait bizarre, hein. Ça titille le tympan comme ça, c'est assez
Ah
étrange.
ouais, ça, moi, dès que j'entends ça, j'ai des petits frissons tout de suite comme
Mais
ça.
oui. C'est marrant, c'est marrant.
Désolé.
Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Matt Riddle, Drew McIntyre, ça discute backstage avec Byron Saxton. Ça ne dure pas très longtemps. Mais visiblement, alors McIntyre sera pas là la semaine prochaine. Je crois qu'il est en tournage, Giscal. J'ai découvert ça. McIntyre qui se lance lui aussi à
Oh
Hollywood.
bah,
Non, mais...
malaise. Ah d'accord.
du coup, Riddle, ce qui explique pourquoi Riddle lui aura un match contre Gunther pour le titre intercontinental encore. Un
Ah
rematch. La semaine
d'accord. Oh oui,
prochaine,
ouais.
en s'assurant que Imperium sera banni du ring. Il
Ah.
doit discuter avec Adam Pearce pour s'assurer de tout ça. Et McIntyre dit ils vont faire la fête. Byron essaye de taper l'incruste et l'autre il dit oh, pas toi. Bon, d'accord. Voilà le petit programme pour la semaine prochaine. On arrive au main event. Si tu as quelque chose à dire sur le casting de Drew McIntyre.
C'est de la transition, ok, très bien.
Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn contre le Judgment Day, représenté par Damien Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Voilà le All-Star Game du main event. Gros match. Mais alors, attention, je dis gros match, c'est amusant, puisque j'ai noté quand même que dès le début, ça partait pas très bien. Il y a eu des approximations. Il y a eu des mésententes entre les catcheurs. Le match était un peu bizarre, en fait. Il n'y avait pas une grosse connexion, surtout au début. Après que ça s'emballe, bon, ça passe. Mais au début, il y avait des trucs un peu chelous. Toujours est-il que sur la fin, je dis justement, le match s'emballe, on a le super kick de Rollins sur Priest. Rollins qui enchaîne derrière avec un pedigree sur Damien Priest, mais Balor qui empêche... Voilà. L'histoire là, qui était le focus, c'était de voir est-ce que Finn Balor et Damien Priest allaient pouvoir s'entendre ce soir, dans le Judgment Day, est-ce que ça roule ? Eh bien, on va voir que oui, que ça fonctionne plutôt bien. Balor qui demande le tag, Priest, il dit ok, pas de problème, même s'il hésite un petit peu. Le Sling Blade, ça commence à monter. Dominic qui prend le tag lui aussi, fait le Frog Splash. Mais Sami Zayn arrive au dernier moment, en plus, il arrive vraiment. L'arbitre était sympa parce que il a rien brisé en fait. Les deux se sont. Voilà, le tombé a été cassé par les protagonistes avant que Sami Zayn physiquement ne les touche. Sami Zayn, il était un petit peu hors temps ce match. En décalage. Le tag derrière, Zayn qui est là, qui fait le crossbody sur Balor. Balor résiste, le Blue Thunder Bomb, le dropkick pour pousser Sami Zayn dans le coin. Le coup de grâce, c'est évité. Le Blue Thunder Bomb, Dominic qui casse le tombé, beaucoup de tombées qui sont cassées. Le stunner de Kevin Owens. Priest qui balance Owens à l'extérieur, on arrive à la fin. Zayn qui balance Priest à l'extérieur. Zayn qui bloque Finn Balor, le Exploder. Et enfin, Sami Zayn qui s'apprête à placer son finisher. Mais Rhea Ripley s'en mêle une fois de plus. Elle lui chope la jambe et Priest en profite pour placer le choc slam. Et Balor place le coup de grâce. Donc c'est le double finisher sur Sami Zayn. Voilà la punition. Qu'est-ce que c'est que ce match de merde, Samy, là tu fous... Boum, tiens, voilà, deux finishers dans ta tronche et la victoire du Judgment Day face aux trois champions, tout simplement. Donc là, ça se positionne, oui. Là, ça se positionne.
Et oui, monsieur, dame, le Judgment Day, c'est pas des rigolos. Voilà, une victoire, tu vois, pour le coup, on peut faire un petit parallèle avec Bekizo et Stark. Là, je suis d'accord, là, tu vois, là, je trouve que de faire un petit upset, entre guillemets, je trouve ça pas mal du tout. Et puis en plus, bon, déjà, Judgment Day, ouais, ils ont plus l'habitude de faire des 3v3. Finn Balor et les deux rigolos, c'était rigolo, ils avaient une petite interaction backstage avant pour faire des strats entre guillemets, mais ça n'avait pas abouti à grand chose de bien intelligent. Voilà, vous auriez mieux fait de mieux vous préparer puisque vous êtes tombé face à un trio qui sait y faire. Donc, très belle victoire. En effet, tu as raison de souligner un match qui a été étrange, un démarrage étrange. Et puis après, quand on est venu sur la partie, en effet, un classique WWE Main Event à plusieurs, où ça enchaîne les finishers, ça récite les gammes et compagnie, bon, tout de suite, là, les mecs, entre guillemets, l'expérience reprend le dessus et ça passe bien. Mais écoute, un Main Event qui m'a plus intéressé, en effet, pour les implications plutôt que pour le déroulé, que c'était un match classique, que c'était fun à suivre, hein. c'était un main event sympa, mais c'était pas non plus mémorable. Par contre, ouais, c'est plutôt pour ce que ça va amener, parce que Rhea Ripley a réussi sa mission d'un soir, hein, le Judgment Day est de nouveau manifestement sur la même longueur d'onde, donc du coup, danger, gare aux fesses de Seth Rollins, gare aux fesses de Sami Zayn et Kevin Owens, qui voient d'un seul coup leur expertise tag team en quelque sorte remise en cause, hein, parce que certes c'était pas un 2v2, mais bon ils perdent un 3v3, donc c'est quand même un match par équipe, avec Sami Zayn qui prend le tombé, donc le Judgment Day aura des arguments à faire valoir, et je te cache pas que pour SummerSlam je serais pas contre que pourquoi pas on ait une petite défense de titre mais avec le Judgment Day dedans, ça peut être une affiche aussi sympa.
Tu mettrais qui pour affronter Kevin Owens et Sami Zayn?
C'est une bonne question.
Parce qu'il y a beaucoup d'implications derrière.
Est-ce que ce serait Rollins et Priest pour tester, on va dire, la solidité, ou est-ce que ce serait Dominic Mysterio parce qu'on veut garder Priest frais, parce que je ne sais pas qui affrontera Seth Rollins, mais Donc, je ne sais pas. En effet, c'est ça qui va être aussi intéressant, peut-être voir si Rhea Ripley a son mot à dire là-dessus, parce qu'elle a son mot à dire surtout.
Visiblement, oui.
Mais voilà, en tout cas, voilà, un main event qui je trouve, va dans le bon sens de l'histoire, en quelque sorte, hein, et ouais, donne du momentum à des gens qui en ont besoin, et des raisons de flipper à des gens qui en avaient besoin aussi.
Ouais. Très bon main event, moins dans l'exécution, on l'a dit. Au début, c'était un petit peu étrange. D'ailleurs, derrière, des petites rumeurs. D'ailleurs, c'était Géliel qui s'en inquiétait sur notre Discord, qui disait « Attends, il y a de la bagarre backstage. » Après, visiblement, il y a de l'embrouille de la bagarre backstage. Oui. Des rumeurs de bagarre derrière, après le main event, avec Kevin Owens qui s'en va. Alors, voilà. Et puis, les gens qui n'étaient pas contents et tout. Puis, finalement, ça a été plus ou moins démenti. On a dit ouais, des changements de plan de dernière minute, et du coup les mecs n'ont pas réussi vraiment à être en ligne, toi, les uns avec les autres. On se fait travailler là. Parce que c'est exactement l'histoire qui nous était racontée, puisque les Canadiens et Seth Rollins n'ont pas réussi à mettre en place une stratégie pour gagner. Et là derrière, t'entends des rumeurs comme quoi les mecs sont pris la tête parce que le match n'est pas passé comme prévu. Voyons.
Soyons sérieux deux minutes.
Voilà, donc un très très bon main event pour les implications qui sont derrière, tu l'as dit. Moi, je vois une grosse affiche une fois de plus à SummerSlam pour le Judgment Day. Hein. Les mecs, ils enchaînent quand même les gros matchs, les grosses confrontations. Et s'ils ont un match pour le titre suprême plus un match tag team, la Golden Prophecy qui va peut-être s'accomplir une seconde fois la WWE avec une faction qui aurait toutes les ceintures. Hein. Toutes les ceintures, ce serait assez incroyable.
Je pense que ça commence, c'est plus qu'un petit rêve un petit peu de booking, de fantasy booking. Je pense que ça commence à titiller peut-être l'esprit quand même de certains décideurs, en tout cas dans leur range de scénarios possibles, on va dire. Je pense que ça c'est entré dedans en tout cas maintenant. Ils sont tellement mis en avant, ils font tellement bon boulot. Ça pourrait être incroyable, hein, franchement, de voir Finn Balor et Dominique avec les ceintures tag team, Damien Priest avec la ceinture mondiale, le Judgment Day qui fait la pluie et le beau temps sur Raw. Moi, ça m'intéresserait de voir ça. Ce serait vraiment le test ultime, hein, de voir si c'est pas juste, ils sont pas juste là pour la rigolade.
Il y a un post-it dans la salle des bookers, des scénaristes. Il y a un post-it avec ça, résultat de SummerSlam. Le Judgment Day repart couvert d'or. Et moi, ça me plaît bien. J'aime que cette idée puisse exister déjà. Toi,
je suis content qu'il y ait un univers dans lequel
c'est possible.
Existe comme ça avec toutes les ceintures. Ouais.
Allez, c'est l'heure du mot de la fin. Tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour ce rôle là, comme tu peux le voir, hein, ça va être peut-être. Il y a plus de choses. SmackDown.
Ouais,
il y a plus de choses.
Plus de choses SmackDown. Globalement, c'était mieux que la semaine dernière, on va dire. Mais ça reste très inégal. Je trouve qu'on est dans une période. Alors, je sais pas. La semaine dernière, j'ai mis ça sous le coup de la gueule de bois de Money in the Bank. Peut-être que c'est peut-être un peu toujours ça. C'est les cocktails, c'est la piscine qui m'appelle. Là, j'en sais rien. Je trouve que c'est pas folichon à regarder dans sa totalité en ce moment Raw, donc je vais rester sur une moyenne, ça va peut-être surprendre un peu, je reste sur un 2,5 parce que globalement je trouve que c'est très sage, il y a des vrais défauts dans la carte, alors qui sont toujours concentrés un petit peu sur les mêmes personnes, hein. Shayna Baszler, Ronda aussi, je trouve que c'est vraiment très très mauvais. Becky Lynch triche, c'est très très mauvais. Cody Rhodes, c'est bien, mais dès qu'il n'y a pas Brock Lesnar, tu sens qu'il est là juste pour faire chanter son theme song à la foule. Hein. C'est très sage. Les segments, grosso modo, sont assez sages. Et il n'y a vraiment que le Judgment Day, je trouve, qui sort son épingle du jeu.
Oui, je suis d'accord.
Sur cette émission. Le reste, ça ne sent pas encore très très fort SummerSlam. Alors tu me diras, c'est normal, hein, c'est loin SummerSlam. Mais voilà, je trouve qu'on n'a pas, une émission de 3 heures qui est forcément ultra, ultra excitante. Donc j'avais décidé de mettre une petite moyenne de 2,5. Je vais être un peu sévère, parce que bon, globalement, les segments étaient quand même pas trop mauvais. Hein, mais... et mon top, je vais faire un top collectif, ou je ne sais pas, peut-être un Rhea Ripley, parce que en fait, en redéroulant l'analyse avec toi, je me suis dit, mais en fait, c'est fou à quel point elle a été omniprésente.
ce week-end, ouais.
Je revoyais tous les segments et je me disais, non, mais en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle est là, c'est bien, quoi. Enfin, en fait, écoute, je vais lui donner mon top. Je trouve que je vais lui donner mon top et paradoxalement, je vais en profiter. Je vais lui donner mon flop aussi. Je vais donner mon top parce que je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est génial. Mais j'en ai ras le cul que sa ceinture soit un accessoire de mode, là. Ouais. Et donc, c'est bon, là, la confrontation de 2 secondes avec Raquel Rodriguez, ça fait 3 semaines qu'on l'a déjà eu. Il faut qu'il passe un truc, la merde, c'est pas possible. Ok, elle a des soucis à gérer dans l'équipe, mais elle peut pas. En fait, j'ai presque l'impression qu'elle prend en otage la scène féminine avec sa ceinture, parce que du coup, on est obligé de se retrouver avec des programmes de merde à côté, alors qu'elle pourrait, je sais pas, avoir une grosse rivalité qui cogne un peu, là, ça nous ferait du bien. Et ça m'empêcherait de cracher sur la scène féminine toutes les semaines, là. Donc c'est mon top et c'est mon flop de frustration aussi. Voilà.
Ok, bah c'est beau. Je trouvais ça très intelligent de ta part de lui donner ton top et ton flop. Du coup, bah, je vais le donner quand même à Ricochet. Hein, et puis surtout, pas tant à Ricochet qu'aux mecs qui se sont dit que ce serait une bonne idée de faire une promo et un face-à-face entre Ricochet et Logan Paul.
Ouais, voilà. C'est ça.
C'est surtout que je...
Talk face au trou noir du charisme officiel de la WWE et c'est qui est venu en chemisette, mais putain, mais quel tocard!
quel tocard!
Désolé, j'ai dit Alain. Ouais.
Et puis, moi, alors, il y a eu pas mal de choses sympa. J'hésite. Allez, je vais le faire maintenant parce que je sais pas si j'aurai pas d'autres occasions et si j'ai pas l'occasion de le faire. Eh ben, tant mieux. Bon top, je vais le donner à Samantha.
Ah, oh, Samantha.
Allez. On en a parlé en plus. Ce petit effet physique que procure sa voix quand elle prononce l'arrivée, quand elle annonce l'arrivée de Chelsea Green, c'est quand même quelque chose. Et globalement, c'est toi qui l'as dit, hein, je ne fais que te citer, hein, je te pique tes mots, c'est probablement une des meilleures annonceuses qu'on a eues depuis un bon bout de temps.
Donc, je pense que il y a rien qui top Samantha Irvin, hormis de temps en temps quand je regarde des anciens pay-per-view avec Howard Finkel, mais c'est vraiment.
On en profite ce soir, voilà, dans tout ce mélange, ce burger un peu trop des fois, voilà, avec des saveurs justement. C'est un gros burger, mais comme tu l'as dit, c'est ça qui m'a donné. C'est pour ça que je vais donner un 3. En fait, il y a beaucoup à manger, mais beaucoup de choses sans saveur, en fait.
Ouais,
et
c'est
à
ça,
part le Judgment Day, qui est vraiment le côté épicé, quoi, arriba, de Monday Night Raw, le reste, c'est plan-plan, les champions, j'ai tenté de dire, même les Kevin Owens et Sami Zayn, parfois même Seth Rollins,
ouais, c'est léger, hein.
ils sont en mode cruise, là, tu vois, ils touchent pas le volant, là, ils touchent pas le volant.
Tout l'intérêt de cette défaite à la fin, au moins, je me dis, électrochoc, hein, parce que c'est un peu trop facile la vie pour eux là. Hein.
Exactement. Donc voilà, c'est vrai que voilà, d'où mon 3 pour ce show, qui a les qualités, qui a des défauts, mais qui manque de saveur. Et c'est vrai que du coup 3 heures, moi je le regarde en 2 fois, donc on va dire que ça passe, mais voilà, c'est quand même long. C'est McDan, voilà, il y a moins de choses, mais ça passe nickel quoi.
Allez. Ton top,
mais non. Non, je sais pas trop où le mettre. Il manque. Non mais voilà. Il m'a encore endormi, ce Cody. Le mec, je vais même pas filer mon flop, quoi. J'y ai pensé, et toi, Cody m'a encore endormi. Il est très fort,
ouais,
il est très fort.
Tu
ne me donneras pas ton flop, Irem. Tu ne me donneras pas ton flop. Et maintenant, tu es court tout nu dans la pampa. Et maintenant, tu vas dire à tout le monde que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Pour vous retrouver, il suffit de vous abonner. C'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce. Nous rejoindre également sur notre Discord. Le lien est dans la description. Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. Je te remercie, Giscal, pour cette double analyse.
Merci à toi également de m'avoir accueilli.
Voilà. Une belle affaire qui roule. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt parce qu'il va se passer pas mal de choses. Un gros programme là pour ce SmackDown qui arrive. On l'a dit, hein, beaucoup de matchs de championnat notamment. Et peut-être, le couronnement enfin de Sonya Deville et Chelsea Green. Alors, je le fais tellement mal par rapport à Samantha. C'est elle, la vraie, la queen. Allez, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Chelsea Green.